7h, 9h.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc le mercredi 28 juin. Je suis ravi d'être à vos côtés ce matin. J'espère que cette nuit n'a pas été trop difficile, que vous avez réussi à trouver le sommeil dans cette chaleur dont on parlait. Et Laurent le disait, on n'est pas au bout de nos peines. On sera tout à l'heure à Clermont-Ferrand où on s'attend à un record aujourd'hui, 41 degrés. Et avec la chaleur arrive la pollution. Attention, circulation différenciée aujourd'hui à Paris et à Lyon. 7h40, Jean-Michel Apathy. Fallait-il vraiment annuler le brevet des collèges? Le gouvernement en fait-il trop? À 8h15, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce rapport rendu par les députés. 8 mois de travaux et d'auditions pour un état des lieux de la radicalisation dans les services publics. On en parle avec mon invité à 7h45, Médéric Chapiteau, ancien gendarme et spécialiste de la radicalisation. Et puis ça y est, le Tour de France, c'est dans 10 jours. À 7h15, on vous emmène dans les coulisses de la caravane du Tour. Énorme business pour les marques avec 12 millions de spectateurs au bord des routes. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Courage pour cette chaude journée. On est ensemble jusqu'à 9h.
Et très bon réveil en ce mercredi matin. Il est 7h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Sébastien Krebs.
Et avec Hélène Zélani pour le journal de 7h. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le mercure qui n'en finit plus de grimper. Tous les moyens sont bons pour trouver un peu de fraîcheur et pourquoi pas une escapade en Bretagne. Reportage dans un instant. La radicalisation dans les services publics, sujet très sensible au cœur du rapport parlementaire dévoilé aujourd'hui. Michaël Darmon, qui a pu le lire, nous en donnera les grandes lignes. Et puis, nos enfants mangent trop de sucre et cela dès le plus jeune âge. Avertissement de l'agence sanitaire ANSES qui préconise d'oublier boissons sucrées et gâteaux.
Europe 1.
Quelle chaleur! C'est sûrement la phrase qu'on entend le plus souvent en ce moment et ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas encore au pic de la canicule. Le mercure va tout de même atteindre les 40, voire plus à Clermont-Ferrand par exemple. Et pour échapper à la fournaise, la bonne idée c'est une balade dans les Côtes d'Armor où les températures ne dépassent pas les 19-20 en ce moment. Terre d'asile pour Français en mal de fraîcheur où s'est rendu François Coulon pour Europe 1.
19 degrés à Étables-sur-Mer et des clients qui jouent les prolongations à l'hôtel Éode de Mathieu.
On a des gens qui prolongent actuellement. Ils devaient partir aujourd'hui, il reste encore 2-3 nuits de plus pour éviter de prendre la canicule et ne pas souffrir de la chaleur. C'est du réfugié climatique. On a vraiment cette sensation-là, c'est que les gens viennent se protéger des gros pics de chaleur.
Elle reprend son souffle à la terrasse d'une crêperie de Bigny, Christiane.
Vous venez d'où ?
De l'enfer parisien, 36 degrés.
Alors qu'ici ?
20 degrés, c'est le paradis. Moi je suis terrorisée par ces annonces de canicule.
Véronique a quitté Évreux hier à la dernière minute.
On échappe à la canicule parce que là-bas, dans l'heure, il fait très très chaud. Là, il doit faire 32 ou 33.
Vous êtes vraiment venu pour ça ?
Oui, oui, oui. On est dit, on s'en va. Là, on est bien. Au moins, on a une bonne nuit et respirer le grand air.
20 degrés et un vent quasi frisquet devant la plage de Saint-Quay-Portrieux où s'est posé le camping-car d'Élise.
Comme on dort dans le van et qu'on vit dans le van, s'il fait 35 degrés toute la journée, c'est pas possible. Hier, on a dormi au frais. Même pas 20. C'est le bonheur.
Élise visait le sud, in extremis, elle a fait demi-tour pour revivre dans les Côtes d'Armor. Binic, François Coulon, Europe.
Et dans le Val-de-Marne, un parent d'élève a cru bien faire quand il a acheté 10 ventilateurs pour la maternelle de sa fille où les enfants suffoquaient sous 40 degrés. Il a tout de même dépensé 400 euros et pourtant, après le passage d'un inspecteur, l'école lui a demandé de les reprendre sous prétexte qu'ils n'étaient pas homologués.
Lorsque j'ai appelé la municipalité, j'ai eu une responsable qui a eu un ton exécrable. Et si vous n'êtes pas content, c'est qu'à les acheter vous-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 10 grands ventilateurs, 9 emballés dans le carton, norme CE. Et j'ai fait la livraison hier après-midi dans chaque classe. Les maîtresses, les ATSEM, la directrice, tout le monde était satisfait, très heureux. À aucun moment j'aurais pu penser qu'un inspecteur de l'éducation nationale me parle que ces ventilateurs ne seraient pas homologués éducation nationale. Je me suis renseigné, ça n'existe nulle part cette histoire.
Voilà, Philippe Bourriachi, parent d'élèves désabusés.
C'est complètement surréaliste cette situation. Chaleur et la pollution qui va avec à présent. Aujourd'hui, la circulation sera différenciée à Paris et en petite couronne.
Oui, pour pouvoir rouler, il faut une vignette critère 0, 1 ou 2, même mesure à Lyon. Hier, le Haut Conseil pour le climat, mis en place par Emmanuel Macron, a appelé la France à revoir sa politique de lutte contre le réchauffement. Objectif ambitieux, dit-il, mais action insuffisante. Et puis en pleine canicule, les soldes d'été s'ouvrent aujourd'hui. Ils ne dureront que 6 semaines pour la dernière fois. Les commerçants craignent que la chaleur ne pousse les consommateurs à commander plus tôt sur Internet. Europe 1, il est 7h04.
C'est un rapport qui devrait faire beaucoup de bruit. Il concerne la radicalisation dans les services publics.
Oui, rapport dévoilé aujourd'hui par deux députés, Éric Diard et Éric Poulia. Après une longue enquête de 8 mois, une cinquantaine d'auditions à huis clos, Michaël Darmon, vous avez pu lire ce rapport pour Europe 1. Qu'est-ce qui vous a marqué?
Et oui, effectivement, l'alerte la plus forte dans ce rapport dont Europe 1 s'est procuré l'intégralité, eh bien, l'alerte la plus forte, c'est celle qui existe dans le milieu sportif où la prévention est très faible, disent les auteurs de ce rapport, notamment dans les pratiques émergentes des arts martiaux mixtes, dans les salles de musculation, dans le foot en salle ou le tir sportif. On y dénonce dans ce rapport des prières collectives dans les vestiaires, l'obligation du port du caleçon dans les douches et le recrutement non mixte obligatoire. Il y a urgence, disent les rapporteurs. Autre point noir, la situation dans les hôpitaux, le niveau de prévention est jugé très faible. Il y a même d'ailleurs des réticences des personnels de santé à signaler donc des radicalisés en invoquant le secret médical. Et dans les universités, disent les députés, on n'est ni informé ni sensibilisé au problème de la radicalisation, selon donc leurs auteurs.
Et ça, c'est pour le constat. Est-ce que le gouvernement va se saisir de ce rapport?
Alors, ils font une trentaine de propositions dans ce rapport. Les deux députés préconisent d'étendre donc les enquêtes administratives de sécurité aux éducateurs sportifs, aux pompiers, aux professionnels et aux personnels de l'éducation nationale. Ça devrait également soulever un débat dans ces professions. Ils mettent également en avant que les forces armées, et ça, il faut aussi le souligner, sont globalement étanches quand même à la radicalisation. Leurs propos ont nourri un rapport qui sera donc transmis aux députés de la commission des lois ce matin. Et les deux rapporteurs dédient leur travail à la grande majorité, selon eux, des agents publics qui travaillent pour le bien commun, disent-ils, sans jamais transiger avec les valeurs de la République.
Michaël Darmon.
Et on y revient à 7h45 avec mon invité Médéric Chapiteau, qui est doctorant en sociologie et qui justement a écrit un livre sur la radicalisation dans le sport dont vous parliez.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zellani. Ça bouge à Sciences Po Paris qui supprime le concours d'entrée et s'engage à accueillir 30% de boursiers. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Sébastien Krebs.
La suite du journal Hélène Zellani, c'est un séisme dans l'univers des grandes écoles. Sciences Po change son mode de sélection.
Eh oui, la prestigieuse école parisienne va supprimer son concours d'entrée en première année à partir de 2021. Il n'y aura plus d'épreuves écrites, Virginie Salmen.
C'est toujours la même logique, diversifier les recrues de la prestigieuse école, ne pas laisser dormir des talents au fin fond d'un quartier défavorisé. La direction de Sciences Po supprime donc les épreuves sur table, à commencer par la fameuse dissertation d'histoire ou l'épreuve de maths. Désormais, la sélection se fera sur le dossier scolaire du candidat, sur ses notes du bac, sa motivation et un entretien oral. Mais évidemment, un élève de Louis le Grand n'aura pas les mêmes chances qu'un candidat issu d'un lycée de banlieue. Alors, le grand oral sera codifié. Il ne se fiera pas au niveau de langage, au vocabulaire, mais ira chercher chez le candidat sa curiosité, sa capacité d'analyse, son expérience, au-delà des codes sociaux. Car à Sciences Po, au bout de très peu de temps, on arrive à égaliser les compétences des élèves. Alors le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, entend déjà les mauvaises langues dire que le niveau baissera fatalement. Pour toute réponse, il rappelle qu'aucune grande université anglo-saxonne, Harvard ou Oxford, n'organise d'examen écrit à l'entrée.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. À tous les âges, les enfants mangent trop de sucre et ça commence très tôt, dès 4 ans et même avant. Gâteaux, biscuits, bonbons et autres sodas, tous ces produits sucrés sont mauvais pour leur santé, car c'est dans l'enfance et l'adolescence qu'on prend les mauvaises habitudes alimentaires. Avertissement lancé par l'agence sanitaire ANSES, qui recommande plutôt les produits laitiers nature, les fruits frais ou encore l'eau. Ce n'est pas gagné, comme l'a constaté Mathieu Bock devant une école parisienne.
Adossé à un arbre, Marie attend que son fils Malo, 10 ans et demi, sorte de l'école.
Salut, ça va ?
Avant même de l'embrasser, rouge de sueur, l'enfant annonce la couleur.
J'ai faim.
Sa mère fouille alors dans le sac en toile qu'elle tient en bandoulière.
Alors, banane et des princes, hein, donc bon.
Par contre, c'est bien industriel.
Oui, voilà.
Pareil pour ses autres parents, difficile de lutter contre les produits industriels, bien plus pratiques, disent-ils.
À 4h30, quand ils sortent, dans les 3 minutes, ils ont envie d'avoir quelque chose à la bouche, ils ont faim.
D'habitude, c'est plutôt des petits gâteaux, la bouteille d'eau et puis des compotes. Voilà, pour quand même avoir un peu de vitamines et un peu de fruits.
Mais j'ai du mal à me passer des gâteaux industriels parce que c'est eux qui les réclament. Même quand moi, j'essaye d'avoir des bonnes intentions. Quand j'ai avec du pain et du fromage, ils m'engueulent, quoi.
Et par ces fortes chaleurs, l'ANSES précise que les jus de fruits aussi contiennent beaucoup de sucre. Elle recommande donc d'en boire un verre maximum par jour et pas tous les jours.
Mathieu Bock.
Et justement, on revient sur ces fortes chaleurs. Pas facile non plus pour les sportifs de s'entraîner.
Et notamment pour les footballeuses de l'équipe de France qui préparent leur quart de finale vendredi contre les États-Unis. Elles vont partir avec un avantage. Elles ont en effet obtenu le droit de s'entraîner à Clairefontaine, le centre hyper moderne du foot français où Simon Rubin est allé faire un tour.
Tandis que les Américaines logent dans un hôtel de banlieue parisienne et doivent s'entraîner sur un terrain municipal à 5 km de là, les Françaises, elles, bénéficient des infrastructures de pointe de Clairefontaine. Pelouse parfaite, cryothérapie, salle de projection vidéo haut de gamme et tout ce qui se fait de mieux en matière de récupération et d'entraînement. Philippe Joly est l'un des entraîneurs adjoints et évidemment, il est ravi de pouvoir préparer le match depuis Clairefontaine.
C'est un avantage par rapport à une équipe qui est au centre de Paris, surtout avec la météo qui est en ce moment. Oui, c'est un avantage parce qu'on est chez nous, c'est notre maison, c'est là où on a nos repères. On a tous les outils pour pouvoir récupérer. On prend Clairefontaine volontiers, quoi.
Et les Bleus vont pouvoir rester à Clairefontaine jusqu'au match. Elles ont obtenu une dérogation de la FIFA qui imposait jusqu'à présent à toutes les équipes de loger dans des établissements présélectionnés. Parmi les joueuses, on est ravis quitter le cadre impersonnel des hôtels, avoir tout à portée de main et puis être plus isolé de l'effervescence. C'est idéal pour préparer le rendez-vous de vendredi.
Simon Rubin, France-États-Unis, donc vendredi soir pour une place en demi-finale. Ce sera évidemment à suivre en direct sur Europe 1, la radio du mondial.
Allez les Bleus, merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Zellani.
La matinale d'Europe 1. Sébastien Krebs.
Et il est 7h11, Sébastien, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry qui se trouve comme chaque matin sur le terrain.
Bonjour Carole.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes tous ce matin.
Écoutez, je suis sur la place du village de Nant-sur-Beuvron, c'est dans le Loir-et-Cher. Aujourd'hui nous sommes mercredi, la journée des sorties ciné, alors je vous emmène au cinéma, un cinéma très particulier. Vous savez, ici, le premier cinéma est à 20 km, alors la région Centre-Val-de-Loire a eu cette idée géniale, transformer un camion en salle de cinéma qui se balade de village en village. Hier à l'affiche, vous aviez Cœurs ennemis. À la projection, Déborah Bulteau, dont le travail dépasse largement la simple projection de film.
Alors en réalité, au début, on est quand même conducteur de super poids lourds. Après, on est régisseur dans le sens où on installe tout ce qui est régie, la salle de cinéma.
C'est compliqué, comment ça se passe l'installation ?
Non, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on a une télécommande. Quand j'ouvre en fait le camion, en fait, de l'extérieur, les parois, ça fait comme un tiroir, ça s'écarte. Mais à l'intérieur, les fauteuils sont fixés au sol comme en forme d'éventail. Hop, ça fait comme le pan, voilà, avec sa queue.
D'un seul coup, le camion se transforme en salle de cinéma de 100 places.
Voilà. Et là, la magie du cinéma opère.
La magie du cinéma dans ce camion cinéma. Il s'arrête dans beaucoup de villages, Carole ?
46 villages. Vous avez 3 camions au total, 6 projectionnistes. Ces camions, ils sont fabriqués dans la région, à Ladon, dans le Loiret. Ils coûtent quand même, bon, 1 million d'euros chacun, mais il faut dire qu'à l'intérieur, vous avez une vraie salle de cinéma. Selon Philippe Leroy, il est projectionniste depuis 28 ans.
On a un très bon projecteur, on a un écran qui fait quasiment 10 mètres carrés, des sièges, des vrais sièges en velours rouge. Donc, c'est pas du cinéma à rabais. On est très bon au niveau son. On a la même qualité quasiment que dans les grands complexes.
La même qualité, c'est aussi le sentiment qu'ont les spectateurs, Carole ?
Oui, tout à fait. Hein. Ils ont vraiment l'impression d'être au cinéma, pas du tout dans un camion. Et c'est le cas d'Élise, qui habite à 5 minutes à pied. Elle vient régulièrement avec sa fille adolescente.
Ah bah on regarde le film, oui, comme si on avait acheté effectivement sa place de cinéma dans un multiplex avec 15 salles, il n'y a aucune différence. C'est à côté, on n'a pas besoin de faire 40 minutes de route pour aller voir un film. On peut laisser les enfants au cinéma et venir les chercher après.
Ça, vous le faites souvent ?
Ah, quand il y a des séances pour les enfants, oui, on les dépose et on vient les chercher après la séance. Et ça, c'est pratique.
Alors l'inconvénient, c'est que les films sont généralement projetés 4 semaines après leur sortie. C'est une obligation légale. Compensation quand même, la place est à 6,20€ et ça c'est pour le plein tarif.
Pas trop cher. Dernière question, Carole, il y a la clim dans ce cinéma ?
Et il y a la clim, ah. Je peux vous le dire. Oui. Et je peux vous dire que tout le monde posait la question. Ça c'est sûr, c'était très attendu. Et c'est assez moderne, ouais, il y a la clim.
Gros argument des salles de cinéma en ce moment, la climatisation. Merci beaucoup. Carole Ferry dans le camion cinéma itinérant du Loir-et-Cher. Bonne séance à vous.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco, signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
On parle de quoi ce matin ?
Et je vous parle des comptes de la France, auscultés par la Cour des comptes. Verdict, le malade reste fragile.
A tout de suite et à 7h20, on vous emmène en coulisses de la caravane du Tour de France. On est à 10 jours du départ et dans les 3 semaines de compétition sont aussi une immense vitrine pour les marques. Certaines déboursent plusieurs millions d'euros. leur stratégie, les retombées financières. Dossier complet à suivre dans Europe 1 va plus loin.
On reste sur Europe 1. Bon réveil à tous, il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Sébastien Krebs.
Et ce pic de pollution à l'ozone, circulation différenciée aujourd'hui sur la région parisienne. Seuls les véhicules qui possèdent une vignette critère 0, 1 ou 2 sont autorisés à rouler, idem à Lyon et Villeurbanne. Un rapport parlementaire dévoilé sur la radicalisation dans les services publics, phénomène marginal mais qui pose quand même des problèmes, notamment dans les prisons ou à la RATP. Oui au cannabis, mais non au vapotage. San Francisco, première grande ville américaine à interdire la vente de cigarettes électroniques. Les autorités veulent préserver la jeunesse des ravages de la nicotine. Et puis la météo, quelques orages sur la Bretagne, mais partout ailleurs, grand soleil et chaleur étouffante. 65 départements en vigilance orange canicule, il fera jusqu'à 40 degrés en Auvergne.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Europe 1. Économie maintenant. C'est l'édito éco avec la banque Tarnot pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, les contribuables français n'ont pas fini de payer pour la crise des Gilets jaunes. C'est le diagnostic que dresse aujourd'hui la Cour des comptes.
Eh bien oui, en effet, la sortie de la crise des Gilets jaunes et du grand débat va coûter cher et pendant longtemps aux contribuables. Les magistrats de la Cour des comptes ont fait leurs calculs. Ils montrent que les mesures prises par le gouvernement auront un impact sur le déficit public au moins jusqu'en 2020. Bercy prévoyait un déficit de 2% du PIB l'an prochain. Ça pourrait être plutôt 2,3%. Alors vous me direz, c'est pas une dérive considérable, mais derrière ce chiffre, il y a en fait moins d'économies prévues, plus de dettes et puis un tour de passe-passe.
Ah bon ? Lequel ?
Ben, les prévisions gouvernementales, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est bon de le rappeler, intègrent un effet d'aubaine lié à la baisse des taux d'intérêt. Ça se traduit par des économies de 400 millions d'euros cette année. Et surtout, si les taux d'intérêt restent aussi bas, ce sera 4 milliards d'euros l'an prochain, comme ça, d'économies. Pour situer les idées, c'est pratiquement ce que rapportait l'ISF. Or, comme le dit très bien la Cour des comptes, ces économies dues à la baisse des taux d'intérêt ont, je cite, un effet anesthésiant. C'est-à-dire que pendant ce temps, on s'abstient de faire d'autres efforts. Et puis surtout, c'est très fragile parce que rien ne dit que la situation des taux d'intérêt ne va pas changer.
Alors la France qui affiche un endettement élevé se distingue là de ses voisins.
Alors oui, si on regarde la courbe des dettes, c'est d'ailleurs très frappant. En Allemagne, ça chute très rapidement. La dette représentait 80% de l'économie allemande en 2010. C'est seulement 60% aujourd'hui. Dans la zone euro, la dette recule depuis 2014. Et puis chez nous, eh bien, elle a continué de grimper jusqu'à l'an dernier. Elle se stabilise tout juste, mais enfin, on ne voit pas de baisse. Voilà pourquoi, comme le souligne la Cour des comptes, notre situation est fragile. Les mesures gilets jaunes, il faut le savoir, auront été en partie financées par de la dette. Il est bon que la Cour des comptes le rappelle, car c'est une réalité que beaucoup font semblant de ne pas voir.
La dette, le mal français. Merci beaucoup Nicolas Barret, l'édito éco d'Europe 1.
Sébastien Krebs. Il est 7h18, Europe 1 va plus loin. À 10 jours du début du Tour de France, on s'intéresse ce matin, Sébastien, au business de la caravane.
Oui, parce que quand on parle du Tour de France, il y a bien sûr la compétition cycliste, mais il y a aussi cette immense vitrine pour les marques. 3 semaines au contact d'un public toujours plus nombreux. On parle de 12 millions de personnes au bord des routes et donc autant de consommateurs. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Sébastien.
Ce business, on va en parler avec vous qui suivrez bientôt le Tour de France pour Europe 1. Mais d'abord, pour comprendre l'enjeu, on va écouter votre reportage à Pithiviers. C'est là-bas que sont fabriqués la plupart des chars qui défileront dans la caravane. Et vous allez l'entendre, les annonceurs sont très pointilleux. Il faut que tout soit parfait.
À 10 jours du tour, il faut encore un peu d'imagination. Sur certains chars, seule l'armature métallique, le socle est finalisé. Les décors, eux, sont toujours en pleine confection.
C'est des pots de miel, ça.
Ils seront posés sur les chars au dernier moment. Les mains pleines de peinture grise, Armel, lui, peaufine une fausse route de montagne.
Là, on est en train de faire les finitions. On attend la décision finale sur la valeur des roches, si elles sont aussi calcaires que ça, parce que ça se valide évidemment.
Validation jusqu'au moindre détail. Les marques font des allers-retours réguliers sur le chantier et ne laissent rien passer. Résultat, les équipes mettent les bouchées doubles pour finir à temps. Sculpteurs, peintres, chaudronniers ou ingénieurs du son pour la sono. Tout le monde est mis à contribution. Pierre-Emmanuel Nicolas est le directeur général de Théobora, l'entreprise qui fabrique ces chars.
En ce moment, on a une quarantaine de personnes. On a un
volume d'effectifs qui est triplé, voire quadruplé en ces périodes, parce que le volume nous y oblige.
En tout, 35 véhicules doivent sortir de cet atelier mercredi prochain et partir en cortège jusqu'à Bruxelles pour le départ du Tour.
Voilà pour votre reportage à Pithiviers dans les ateliers. Marguerite, on comprend bien que pour les marques, il ne faut pas se louper.
Non, c'est une période vraiment cruciale. Il y a un chiffre qui résume à lui seul le défi pour ces marques. Selon l'organisateur du Tour, 50% des spectateurs sur le bord des routes disent venir en premier lieu pour voir passer la caravane. Pour eux, ce moment est plus important que le passage des coureurs.
Ah oui, à ce point-là.
Voilà, à ce point-là, un spectateur sur deux vient uniquement pour la caravane. En termes de marketing, donc, on le comprend, cette caravane n'a aucun équivalent dans le monde. On parle là d'une opération de com' de 3 semaines pendant lesquelles les marques ont un accès direct au public. Résultat, les enseignes se bousculent pour avoir le droit de défiler. Cette année, il y aura 31 marques, dont 5 nouveaux entrants, notamment Amora, le Parc Astérix ou encore Leclerc, le nouveau partenaire du maillot à pois.
Voilà, il y a embouteillage à l'entrée. Est-ce qu'on sait combien ça coûte de faire partie de la caravane ?
Eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Il y a une douzaine d'années, l'opération coûtait environ 50 000 euros, tout compris. Aujourd'hui, il faut déjà débourser 250 000 euros, rien que pour les droits auprès de l'organisateur. Et puis ensuite, il faut ajouter le prix de la caravane en tant que telle, les chars, les goodies, le personnel. Pour les marques qui sont aussi partenaires du Tour, la facture peut ainsi grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais tout cela, c'est donc pour se payer l'une des plus belles campagnes de pub de l'année. Nicolas Lebrun est chef de marque Cochonou.
Ça représente la moitié de nos investissements publicitaires de l'année. On estime que c'est à peu près 1 million de personnes qui peuvent déguster notre saucisson pendant les 3 semaines du Tour de France. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment à un temps fort chez nous de vente. C'est tous les ans un gros événement pour nous.
Voilà, on l'entend, c'est un temps fort pour les marques. On a une idée de combien ça rapporte au final ?
Alors, ni Cochonou, ni les autres marques n'acceptent de communiquer sur les retombées. Ce que l'on sait, si l'on prend par exemple cette marque de saucisson, c'est qu'elle fait 20% de ses ventes de l'année rien que sur le mois de juillet. Alors, quelle part est liée directement au Tour de France ? Ça, Cochonou refuse de le dire. Mais il y a, c'est certain, un effet caravane. Sinon, les marques ne débourseraient pas plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Il y a un impact sur les ventes, mais aussi, évidemment, sur la visibilité. 15 millions de produits seront distribués pendant 3 semaines, dont certains comme des casquettes ou des t-shirts que l'on retrouvera tout l'été sur les plages de France.
Voilà, 20% des ventes de saucissons au mois de juillet et aussi un effet apéro, probablement.
Voilà, Cochonou ne dit pas quelle est la part de l'apéro ou celle du Tour de France.
Le Tour de France qui commence dans 10 jours et que vous nous ferez vivre donc sur Europe 1. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre, vous prenez donc bientôt la route du Tour, dossier signé Europe 1, va plus loin.
Est-ce que vous aussi vous allez voir passer la caravane du Tour de France ? Allez-vous suivre ce Tour de France ? Dites-le nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour.
Bonjour Anissé. Sébastien.
Ce matin, on parle de la ville du futur.
Oui, une ville moins polluée, moins chère, avec moins de stress, mais où il faudra accepter de se faire espionner.
Aïe. À tout de suite.
Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissé Mbida, Sébastien.
À quoi ressemblera la ville du futur ? En 2017, la maison mère de Google avait reçu le feu vert pour construire un quartier futuriste à Toronto, au Canada. Anissé Mbida, ça y est, elle vient de présenter les plans. Qu'est-ce que ça donne ?
Alors, on est très très loin de films comme Blade Runner ou Le Cinquième Élément. Là, on parle d'une ville durable avec des bâtiments essentiellement en bois, beaucoup de verdure, des vélos et une gestion exemplaire de l'énergie et de la qualité de l'air. Il y aura par exemple des trottoirs qui s'élargissent en dehors des heures de pointe pour donner plus de place aux piétons, des appartements modulaires, hein, comme ça on peut réorganiser les pièces si on attend un nouvel enfant par exemple. Il y aura aussi un réseau de tunnels pour se faire livrer des colis en souterrain et recycler les déchets sans bloquer la circulation. Donc vraiment, plein d'idées très intéressantes.
Ça fait rêver tout ça, j'imagine que ça va coûter cher d'y habiter ?
Eh ben non, pas du tout. La majorité des appartements sont largement en dessous des prix du marché grâce à des nouvelles méthodes de construction. En fait, ce quartier, c'est un laboratoire. Son objectif, c'est de repartir d'une page blanche et de s'appuyer sur la technologie pour régler les problèmes des villes d'aujourd'hui, donc les trajets interminables, la pollution, le stress, les loyers élevés, etc. Il y a quand même juste un tout petit problème, c'est que pour y arriver, la ville doit se gérer toute seule, donc il y aura des milliers de caméras, de capteurs qui vont traquer tous les faits et gestes des habitants pour automatiser la circulation, la sécurité ou la propreté. Ça pose évidemment des problèmes de protection de la vie privée, parce qu'on le rappelle, hein, le modèle économique de Google, bah, c'est gagner de l'argent avec nos données personnelles.
Et donc là, c'est gagner de l'argent à l'échelle de toute la ville. Il y aura quand même des garde-fous ?
Alors c'est ce que demandent les opposants au projet. Évidemment, Google cherche à rassurer tout le monde en prenant une série d'engagements. Mais c'est un problème qu'on va avoir aussi chez nous en France. Il y a beaucoup de projets de villes intelligentes où les données sont collectées par des sociétés privées. On ne sait pas toujours ce qui est fait de ces données. L'exemple de Google va donc servir à fixer peut-être des règles et éviter nos quartiers de nous espionner.
La ville Google du futur, c'est à Toronto, hein, donc au Canada. Merci beaucoup, Anissa Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos, edf.fr. Dans un instant, c'est le journal de Céline Kallmann. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Sébastien.
Laurent Cabrol, on le disait tout à l'heure, on s'attend à des records.
Hein. Bah oui, on s'attend à des records, encore plus élevés qu'hier, hein, puisque là, je consulte en ce moment même les notes que je prenais. 39 degrés à Carpentras hier après-midi, c'était déjà énorme. Je pense qu'on arrivera, on dépassera les 40. À 1600 mètres d'altitude, ça c'est une particularité quand même de cette vague de chaleur, c'est qu'en altitude, les températures sont très élevées. Au Saisy, à 1600 mètres, il faisait hier 29 degrés, rendez-vous compte. Et à 2000 mètres, à Tignes, 26 degrés. Donc c'est une couche de chaleur très épaisse qui monte jusqu'à 1500 mètres, grosso modo. Et c'est la raison pour laquelle on n'a vraiment aucune chance d'y échapper. Hein. Et si quand même vont y échapper la Bretagne, la région nantaise, la Vendée, la Normandie, le Pas-de-Calais, où nous aurons encore des vents de nord-est qui rafraîchissent à peine l'atmosphère, parce que ces vents viennent de régions où il fait déjà chaud. Et nous allons avoir donc dans ces contrées un petit risque d'orage ce matin et surtout dans l'après-midi, eh bien, l'arrivée de la chaleur, car la chaleur va finalement envahir dans les jours qui viennent toute la France. Hein. Hier, il y avait 70% du territoire qui était concerné à 19h par des températures supérieures à 30 degrés. Et donc maintenant, ça y est, tout le monde va être concerné. Alors, il y a deux jours, chers amis, deux jours, trois jours pénibles. Et puis après, on sera libéré provisoirement. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sera libéré durablement. Donc, allez, patience, on arrive au bout de nos peines. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est à Carpentras, Auxerre et Brive qui fera le plus chaud, avec des valeurs de 40 à 41 degrés. À Paris, il en fera 35.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 7h28 sur Europe 1, dans un instant, le journal de 7h30.
L'instant Darty.
Chérie, ça fait des heures que tu regardes la télé, elle est même pas allumée.
Ah oui, mais elle est tellement belle. C'est les soldes chez Darty. Le téléviseur Thomson 100% 4K UHD et Android TV, livré et installé gratuitement, est à 499,99€ au lieu de 699,99€, soit 200€ d'économie.
Référence 55 ED 6406, date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles.
À suivre, Sébastien Krebs.
Le brevet des collèges reporté pour cause de canicule, hein, il aurait dû avoir lieu demain. Le gouvernement en fait-il trop, l'édito de Jean-Michel Apathy, 7h40. Et puis Axel de Tarlé, quand l'ISF fait des émules aux États-Unis, des milliardaires le réclament, une majorité d'Américains est pour. À 7h45, les services publics face à la radicalisation, une mission d'information de l'Assemblée nationale rend son rapport aujourd'hui. Je reçois Médéric Chapiteau, ancien gendarme et chercheur à l'Université de Toulouse. Il a fait partie de la cinquantaine de personnalités auditionnées par les députés. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Europe 1, je vous souhaite un excellent réveil.
Nous sommes le mercredi 26 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et à 7h30, le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La France fait-elle son maximum pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Le Haut Conseil pour le climat remet aujourd'hui à Édouard Philippe son premier rapport annuel et le constat est donc loin d'être réjouissant. Cet organisme indépendant, créé il y a plus de 6 mois à la demande d'Emmanuel Macron, pointe du doigt des engagements insuffisants, notamment dans deux secteurs, le bâtiment et les transports. Les explications de l'ordre Triche.
Si la pollution a baissé l'an dernier, en 2018, ce n'est pas vraiment lié aux actions du gouvernement, lance un membre du Haut Conseil pour le climat, mais c'est lié à la météo, un hiver doux avec une plus faible utilisation du chauffage. Les mesures aujourd'hui en place ne suffisent pas, est-il écrit. Dans la rénovation énergétique des bâtiments, le problème, c'est qu'après les travaux, on ne vérifie pas si le logement est moins gourmand en énergie, explique Céline Guivarche, membre du Haut Conseil pour le climat.
Changer les fenêtres, ça ne suffit pas, c'est une rénovation globale qu'il s'agit de mettre en œuvre et aussi d'évaluer quel est l'effet. On n'a pas de mécanisme systématique pour, une fois que les travaux sont faits, évaluer les gains qu'on a fait.
Et côté transport, la situation ne s'est pas améliorée en France depuis 10 ans, ajoute Corinne Lequéré, la présidente de ce groupe d'experts.
La demande augmente en transport, l'électrification est en retard et on continue à préférer la voiture individuelle. Il y a vraiment des gros blocages au niveau des transports pour justement changer la façon dont on se déplace.
Ce rapport remis au Premier ministre sera aussi transmis au Parlement. Le gouvernement a désormais 6 mois pour répondre aux différentes questions posées dans ce rapport.
Lors de
d'Autriche pour Europe 1. Chaleur, pollution. Donc aujourd'hui, la circulation différenciée est mise en place à Paris et dans sa petite couronne. Cela concerne environ 35% des véhicules. En clair, seules les voitures avec les vignettes 0, 1 et 2 peuvent rouler. Mesure appliquée également à Lyon. Décision exceptionnelle, justifiée hier par le ministre de l'écologie, François de Rugy.
Je tiens à dire qu'en 2003, un certain nombre de décès prématurés constatés à l'époque étaient dus en réalité à la pollution à l'ozone. Et donc, il est tout à fait logique que l'on ait une surveillance extrêmement forte de cette pollution de l'air et que nous en tirions les conclusions pour protéger la santé des Français, mais aussi, bien sûr, ceux qui sont particulièrement exposés, comme dans la région Île-de-France.
François de Rugy au micro Europe 1 de Romane Auquet. Il faut donc s'organiser, hein, si vous n'avez pas la bonne vignette, s'adapter aussi dans les écoles. Certains établissements ont tout simplement décidé de fermer, car la chaleur est insupportable à l'intérieur des classes.
Et Céline, ce matin, 65 départements restent en alerte canicule.
Oui, les nuits sont compliquées, hein, dans les maisons ou appartements mal isolés. La chaleur s'engouffre et étouffe, et c'est dans ce contexte que les soldes d'été débutent aujourd'hui. La question est de savoir si les petits commerçants vont réussir à tirer leur épingle du jeu par rapport aux centres commerciaux climatisés. Maud Descamps s'est rendue dans des commerces de proximité à Paris pour Europe 1.
Dans sa petite boutique de prêt-à-porter, Chantal, en âge, accroche les dernières étiquettes sur les articles soldés. La journée s'annonce difficile.
Il fait déjà bien chaud malgré la clim, mais là on est au max, on ne peut pas faire davantage.
Avec 34 degrés annoncés aujourd'hui, cette commerçante s'attend à avoir un impact sur les heures de fréquentation de son magasin. Elle s'est donc adaptée.
La chaleur va certainement générer une baisse de fréquentation aux heures les plus chaudes de la journée, mais les clientes vont vouloir faire les soldes en se réservant les heures les plus fraîches du jour. C'est pour ça que nous, par exemple, on ouvre à 9h
au lieu de
10h à cause de la chaleur.
Chez la commerçante d'en face, il fait facilement 10 degrés de moins. Nathalie a pris les devants. Hors de question que son gros climatiseur tombe en panne. Sinon, c'est la fuite de la clientèle assurée.
On a fait une grosse révision des climatisations pour être au top. Les gens ne sont pas trop acheteurs. Dès qu'il fait trop chaud, il n'y a que deux cabines, ils ressortent vite. Donc nous, on est toujours bien équipés là-dessus, on investit.
Et pour s'assurer que leur boutique sera bien fraîche à l'arrivée des premiers clients, certains commerçants ont même prévu d'arriver bien avant l'heure d'ouverture pour faire tourner les climatiseurs.
Maud Descamps pour Europe 1. Dans l'actualité également ce matin, le rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics, il est dévoilé aujourd'hui par deux députés après une enquête de presque un an. Les prisons, la santé ou les transports sont plus touchés qu'ailleurs. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré à Emmanuel Macron que son pays ne cherchait la guerre avec aucun pays, pas même les États-Unis. C'est ce que rapporte l'agence officielle iranienne ce matin. Emmanuel Macron qui se trouve actuellement au Japon pour une visite officielle avant le G20 d'Osaka vendredi et samedi.
Aux États-Unis, une ville vient de décider d'interdire la vente de cigarettes électroniques.
Oui, c'est San Francisco, ville qui a pris cette décision pour des raisons de santé publique. Les explications de notre correspondant Xavier Yvon.
San Francisco veut protéger sa jeunesse contre ce que l'on appelle ici l'épidémie de nicotine. Le nombre d'adolescents américains accros à la cigarette électronique a explosé, un lycéen sur cinq vapote, et cela inquiète jusqu'aux élus du Congrès à Washington qui ont lancé des enquêtes. C'est donc dans ce contexte que le conseil municipal de San Francisco a voté à l'unanimité cette initiative radicale, en expliquant aussi qu'on ne connaît pas encore exactement l'impact du vapotage sur la santé, il n'y a pas assez d'études. À San Francisco, où est installé le siège de Juul, le fabricant leader sur le marché, il sera donc interdit de vendre des e-cigarettes d'ici 6 mois et même de s'en faire livrer à domicile. Les opposants à cette mesure, eux, craignent un retour à la cigarette traditionnelle. Il est vrai qu'à San Francisco, on aura toujours le droit d'acheter des paquets de cigarettes et même du cannabis qui est légal en Californie. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Un miracle dans le massif du Mont Blanc. Deux alpinistes ont dévissé hier sur 200 mètres alors qu'ils redescendaient du sommet du Mont Maudit. L'un n'a rien eu du tout, l'autre a été légèrement blessé. Par précaution, ils ont quand même été transportés à l'hôpital de Sallanches pour être examinés. En football, l'Italie en quart de finale de la Coupe du Monde féminine. Une première depuis 28 ans. Les Italiennes qui ont battu la Chine hier 2-1. Les Pays-Bas sont aussi qualifiés après leur victoire sur le Japon 2-1 à Rennes. Et puis toute l'actualité du Mondial, vous la retrouverez avec Jérôme Lacroix à 8h35 sur Europe 1.
Et c'était le journal de Céline Kallmann. Merci beaucoup, 7h36 sur Europe 1.
Et vous pouvez continuer à réagir à l'actualité en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Sébastien. La canicule nous met au supplice. On l'a vu, le brevet décollage a été reporté. Il devait se passer demain et après-demain. Des écoles primaires seront fermées. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas taillé pour la chaleur.
Est-ce que le gouvernement en fait trop? C'est la question qu'on se posera avec vous dans un instant, Jean-Michel. Et puis l'économie, Axel de Tarlé.
Avec les États-Unis qui pourraient créer, figurez-vous, un ISF, un impôt sur la fortune, ça serait la révolution.
Le duo Apathy et Tarlé dans un instant sur Europe.
Il est 7h38, Sébastien Krebs, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel, les épreuves du brevet auraient dû commencer demain pour les 800 000 collégiens français, mais le ministre de l'Éducation a décidé de les reporter à lundi à cause de la canicule. Une décision qui n'a pas arrangé beaucoup de parents et qui lui a été reprochée.
Oui, c'est ça, on a beaucoup critiqué, enfin, à la fois des parents et des responsables politiques ont critiqué Jean-Michel Blanquer pour avoir pris cette décision. Et moi, ces critiques, je les ai trouvées à la fois amusantes et révélatrices. D'abord, si on raisonne en simple bon sens, nous sommes demain et après-demain, dans un pic de canicule, et la décision que prend Jean-Michel Blanquer de dire à 800 000 collégiens de rester chez eux, de ne pas s'exposer à la canicule avec leurs accompagnants, au fond, c'est une décision de bon sens, parce qu'on limite les déplacements de plus d'un millions de personnes. Vraiment, demain, après-demain, il vaut mieux rester chez soi plutôt qu'aller au soleil. D'autre part, c'est méconnaître complètement, ça a l'air bête comme ça, mais le parc immobilier de l'éducation nationale, des bâtiments souvent vétustes, évidemment pas climatisés, ça c'est une évidence, vous enfermez là 30 adolescents pendant plusieurs heures, il va faire 45-50 degrés dans ces salles, il va y avoir évidemment des malaises, alors après on va dire au ministre, bon, enfin monsieur le ministre, vous ne pouvez pas anticiper un petit peu, enfin, la critique est quand même stupide. Donc, la politique, ça ne peut pas être de tir au pigeon. On ne peut pas reprocher aux responsables politiques de ne rien faire, puis leur reprocher de faire quelque chose. Si pile je fasse, gagne.
Puis je gagne et face tu perds.
Voilà, c'est ça, je cherchais, je savais que j'allais me tromper en le disant. Et donc, c'est quand même un peu idiot. Mais surtout, cette séquence, elle nous renseigne sur l'état d'impréparation mentale dans lequel nous sommes face à la canicule. Traditionnellement, les canicules avaient le bon goût, c'est ce qu'on a connu jusqu'ici, de se produire au mois d'août. Voilà. Là, il s'en produit une au mois de juin, c'est-à-dire quand les écoles sont ouvertes. Donc le résultat, c'est que le brevet des collèges est reporté, mais aussi que beaucoup d'écoles primaires seront fermées, pour la même raison, parce que les bâtiments sont profondément inadaptés à ces chaleurs, seront fermés jeudi et vendredi. Alors bien sûr, ça contrarie toute la vie quotidienne. Mais c'est ça, la canicule. C'est contrariant, la canicule. Ça nous empêche de vivre normalement. Et encore, on a de la chance. Ça se serait produit une semaine avant, parce qu'elle ne calcule pas, la canicule. C'était le bac qu'il fallait annuler, peut-être, et repasser. Donc, il faut qu'on comprenne que la canicule, ça n'est pas un petit désagrément, c'est pas un petit coup de chaud, c'est pas quelques degrés de plus, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre normalement. Et le but dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est qu'un jour la canicule ne nous empêche pas de vivre, tout simplement.
Jean-Michel Apathy, vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Europe 1. Axel de Tarlé, à présent. On a du mal à y croire, une majorité d'Américains se déclare favorable à la création de l'impôt sur la fortune, cet impôt qui fait tant débat en France, et l'initiative vient de milliardaires.
Oui, il y a une tribune publiée aux États-Unis de 18 milliardaires. Alors on y trouve George Soros, l'un des fondateurs de Facebook, ou encore l'héritière de l'empire Disney. Donc 18 milliardaires qui appellent à la création d'une taxe qui frapperait les 0,1% des Américains les plus riches. Il faut savoir que ces 0,1% d'Américains possèdent à eux seuls, tenez-vous bien, quasiment autant que 90% de la population américaine. Donc de l'aveu même de ces super riches, c'est trop. Donc ces milliardaires américains expliquent qu'il faut plus d'égalité. Et alors c'est ça qui est surprenant, ils justifient leur combat au nom de la liberté. Car disent-ils, cette montée des inégalités représente désormais une menace pour la démocratie des États-Unis.
Et c'est crédible, cet ISF, il pourrait voir le jour aux États-Unis ?
Eh bien écoutez, c'est au programme de plusieurs candidats démocrates. Alors ce serait un ISF qui commencerait bien plus haut que chez nous. Hein. Les démocrates veulent créer un ISF à partir de 50 millions de dollars, alors que chez nous, il se déclenchait beaucoup plus bas, à 1,3 million. Mais enfin, ce qui est frappant, effectivement, c'est ce sondage Harris qui a été réalisé en février et qui montre une écrasante majorité de 74% des Américains qui se disent favorable à la création d'un impôt sur la fortune. Et même chez les républicains, donc le camp de Trump, vous avez une majorité de 65% favorable à l'ISF. Alors en fait, ce serait non pas une révolution, mais tout simplement un retour à l'Amérique d'antan qui, on l'a oublié, était beaucoup plus égalitaire avant la révolution libérale de Ronald Reagan de 1980. Sous Roosevelt, on le rappelle, l'impôt sur le revenu montait jusqu'à 90%. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain revenu, l'État prenait quasiment tout. Autant dire que François Hollande avec sa TAC à 75%, paraît petit joueur aujourd'hui. Vous voyez,
voilà, quelle ironie. Les États-Unis envisagent de créer un impôt sur la fortune alors qu'en France, on vient de le supprimer.
Ah ouais, voilà, ça, c'est vrai que pour le coup, là, parce qu'on a aussi le même tendance, le même mouvement en Angleterre, Emmanuel Macron, c'est vrai, est à contre-courant. D'ailleurs, 77% des Français sont favorables à un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Alors, il n'empêche, reconnaissons que la situation française n'est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, parce que si l'Amérique a énormément baissé les impôts depuis des décennies, peut-être trop d'ailleurs, la France, au contraire, elle, est devenue, au fil des ans, la championne du monde de la fiscalité, une fiscalité qui représente aujourd'hui 46% de la richesse française, du PIB. C'est 20 points de plus qu'aux États-Unis. Donc chez nous, personne, même pas les plus riches, n'échappe au risque, aux griffes de Bercy.
L'impôt sur la fortune en débat aux États-Unis. Axel de Tarlé, le Zoom Echo. Merci beaucoup, 7h43.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Les services publics face à la radicalisation, quelle est l'ampleur du phénomène ? Sont-ils armés ? Pour y répondre, une mission d'information de l'Assemblée nationale a travaillé pendant 8 mois et rend son rapport aujourd'hui. Dans un instant, je reçois Médéric Chapiteau, ancien gendarme, chercheur à l'Université de Toulouse. Il a fait partie de la cinquantaine de personnes interrogées par les députés. A tout de suite.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Sébastien Kreff.
La vigilance orange canicule concerne désormais 65 départements à Paris, Lyon et Annecy. La circulation différenciée est mise en place aujourd'hui. Ce sera le cas demain aussi pour Strasbourg. Et c'est sous ces fortes chaleurs que les soldes d'été débutent. 81% des Français pensent y participer avec un panier moyen de 200 euros. La France, mauvais élève. Le Haut Conseil pour le climat adresse à Paris un premier rapport cinglant. L'organisme indépendant lancé en novembre estime qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la trajectoire de la France est incompatible avec ses ambitions. Et puis le mondial féminin de football, les Italiennes se qualifient pour les quarts de finale en éliminant les Chinoises 2-0. Elles rencontreront les Néerlandaises, victorieuses des Japonaises 2-1 hier soir.
Europe 1.
Les services publics sont-ils suffisamment armés pour faire face au phénomène de radicalisation ? Alors qu'une mission d'information de l'Assemblée nationale rend son rapport aujourd'hui, Sébastien, vous recevez Médéric Chapiteau, ancien gendarme et chercheur à l'Université de Toulouse.
Bonjour Médéric Chapiteau.
Bonjour à vous.
Vous étudiez depuis plusieurs années ces phénomènes de radicalisation. Vous avez fait partie de la cinquantaine de personnalités qui ont été entendues à huis clos par les députés qui rendent leur rapport aujourd'hui après 8 mois d'enquête. Rapport qui vise donc tous les services publics. Alors c'est large, hein, on parle de la radicalisation à l'hôpital, dans les transports, les administrations, les écoles, les universités. D'abord, quand on dit radicalisation, on parle de quoi ? Elle se manifeste comment, cette radicalisation ?
Alors c'est un concept aujourd'hui qui pose de vraies questions d'un point de vue scientifique, mais qui c'est un terme qui a été vulgarisé sur la place publique. Donc la radicalisation, c'est faut surtout l'analyser par des changements de comportement et pour lesquels on va s'interroger soit sur de l'entrisme religieux, soit sur de l'entrisme idéologique. Et à partir de là, ça va être une étiquette. C'est les services de police et de justice qui vont désigner quelqu'un pour dire cette personne, après une enquête de fond, va être cataloguée, étiquetée comme radicalisée. C'est une procédure qui peut être provisoire et qui va durer un temps donné.
Quand on parle de radicalisation au travail ou dans les services publics, ça commence où ? Est-ce que vous placez le curseur ? Ça commence par une prière sur les lieux de travail ? C'est du prosélytisme ou c'est plus que ça encore ?
Non, c'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, si on commence à dire que toute personne qui fait sa prière ou qui porte une barbe ou autre est radicalisée, on va tomber dans la stigmatisation et l'amalgame, justement. C'est là où il faut être prudent sur le sujet. Et il y a des professionnels de sécurité qui, eux, font la part des choses, et c'est des enquêtes de fond qui sont faites par les services de renseignement qui permettent de dire si une personne est radicalisée. Vous et moi, on ne le saura jamais, puisqu'on est considéré, je dirais, le grand public, c'est tout à fait normal. Mais les services de sécurité sont là pour faire le nécessaire.
Alors le rapport a examiné justement tout ça, ces phénomènes qui peuvent être des phénomènes de pratiques religieuses, de communautarisme et de radicalisation et distingue, comme vous le faites vous aussi, ces termes. Selon vous, on parle d'un phénomène d'ampleur ou ça reste quand même assez marginal ?
Non, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, on le voit tous les jours dans la société. Le fait de cette mission a un grand mérite, c'est de pointer du doigt quelque chose qui change, qui est en train de changer au sein de la société. Pour moi, en tant que chercheur, je pense que c'est un vrai sujet de société sur lequel on doit profondément s'interroger, sans avoir de réponse rapide, parce que c'est tout de suite stigmatisant si on prend des réponses rapides sur ce sujet-là. Et donc effectivement, ça prend de l'ampleur, on le voit, c'est devenu un fait au quotidien qui nous percute, tout simplement. Donc plutôt que de surréagir, Il faut prendre le recul nécessaire et puis prendre les bonnes décisions au bon moment. Je pense que c'est le rôle de cette mission et les préconisations qui vont en découler.
Ouais, et ce qu'écrivent les députés dans leur rapport, d'abord c'est un appel à la vigilance, mais ils estiment que ça reste quand même difficile à mesurer. Et c'est très différent selon le secteur. Alors il y a d'un côté les services comme la police, la justice ou les outils de détection semblent fonctionner. Mais il y a quand même des zones d'ombre qui sont pointées par les députés. Prévention trop peu développée à l'hôpital, des failles à l'université, alerte rouge en prison. Ils demandent d'accroître la vigilance dans les transports publics. Alors il y a des exemples très concrets, je voulais vous faire réagir à celui-là. Par exemple, quand un agent d'une administration est identifié comme radicalisé, on ne peut pas le licencier aujourd'hui, ce n'est pas un motif.
Non, mais c'est pas une condamnation. Donc à partir du moment où la radicalisation n'a pas de constitution juridique et qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de raison d'empêcher cette personne de travailler. Ça pose de vraies questions. Moi, mon domaine de recherche particulier est le sport. Aujourd'hui, des éducateurs sportifs qui sont en face-à-face pédagogique avec des enfants au quotidien, s'ils sont radicalisés et suivis par les services de renseignement, rien ne les empêche d'exercer avec une carte professionnelle d'éducateur sportif aujourd'hui au quotidien.
Et ça pose des problèmes exactement... de sécurité.
Ben, ça pose déjà des problèmes d'éducation et comment ils vont véhiculer les valeurs de la République si on met en doute leur intégrité, je dirais, professionnelle par le fait de cette étiquette radicalisation. Et après, ça pose des problèmes de sécurité en fonction des accès qu'ils ont, oui, tout à fait.
Oui, il y a notamment l'exemple des aéroports où les agents qui ont accès aux zones à risque ont un badge rouge qui est remis par l'État. Le jour où l'État décide de retirer ce badge rouge, la personne ne peut pas être licenciée, donc on l'affecte à une autre zone de l'aéroport, mais elle est toujours en contact avec le public. Il y a des problématiques de sécurité.
Alors, c'est des problèmes de sécurité, c'est le rôle de l'Assemblée nationale et des parlementaires peut-être de réfléchir à une loi ou à légiférer sur le sujet. En tout cas, il faut encadrer ce dispositif, parce que si on ne peut pas d'un côté estimer que ces personnes présentent un risque pour la sûreté de l'État... je prends l'exemple des fichesses, hein, c'est l'appellation de la fichesse, et de l'autre côté, leur donner accès à des secteurs comme vous venez de le citer. Il y a des vraies questions de sécurité qui se posent pour l'ensemble de la population. Et on parle du principe de précaution à l'heure actuelle dans le cadre de la canicule, c'est exactement la même chose pour ce cas-là.
Vous parliez du sport, on parle des aéroports, vous avez le sentiment qu'il y a une forme de démission parfois, qu'on a laissé faire certaines choses, qu'on met un peu la poussière sous le tapis pour ne pas faire de vagues ?
Non, je ne crois pas à la notion de démission, je pense je pense que les gens, toutes les couches de la société ont été confrontées à cette thématique, mais on n'a pas su comment l'aborder pour éviter la stigmatisation et l'amalgame. Je pense que c'est plutôt... Quelque part, il y a une part de bon signe, c'est qu'on ne s'est pas précipité dans un aspect tout de suite sécuritaire. Mais par contre, aujourd'hui, on est sur des vraies problématiques de politique publique. Et cette politique publique, elle a été initiée hein, depuis le 23 février 2018 avec le plan national de prévention de la radicalisation. Donc il faut juste le mettre en œuvre, il faut laisser du temps à cette politique de se mettre en place et de la suivre pour l'évaluer. Je pense que c'est le rôle de la mission qui vient de se faire.
Ça suffit ce qui a été fait jusqu'à présent. On en parle beaucoup hein, de la prévention de la radicalisation. Il y a eu un plan national lancé l'an dernier. Est-ce que ça a eu de l'effet ?
Ben, quand on parle de plan national, il faudrait que tous les acteurs... participent à ce plan national, collégialement, je dirais. Donc effectivement, est-ce que ça suffit ? C'est toujours insuffisant par rapport à l'ampleur du phénomène qui a l'air de nous atteindre. Mais par contre, on sent quand même une envie et des intentions différenciées, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, mais on a des intentions assez fortes pour avancer sur le sujet.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? On parle dans tous les services publics, notamment de l'hôpital. Par exemple, à l'hôpital, les cas, quand un soignant ou un patient manifeste des signes de radicalité, ces histoires ne remontent pas dans la hiérarchie. C'est par exemple, c'est ça qui manque dans les administrations aujourd'hui ?
Ah ben pour moi, le fait que ça ne remonte pas dans la hiérarchie n'est pas forcément négatif au sens premier de la sécurité, puisque plus le circuit est court pour prévenir les services de renseignement, pour évaluer le niveau de dangerosité, mieux c'est. Plus on va diluer ou diffuser l'information, le doute qu'on a des personnes N+1, N+2 dans la hiérarchie, plus on a des risques de fuite et donc de stigmatisation et d'amalgame et aussi de blocage. Pourquoi ? Parce qu'on a, comme vous l'avez dit, peut-être que certaines personnes ne veulent absolument pas qu'on évoque ce sujet parce que ça va jeter l'opprobre sur l'hôpital, sur le secteur, sur le service, sur le sport, surtout sur l'éducation, sur l'école. Donc effectivement, il y a des barrières de protection. Moi, je suis toujours partisan du circuit court. Aujourd'hui, à savoir, la personne qui constate fait un signalement. Les services de sécurité, aujourd'hui, sont très à l'aise sur le sujet pour pouvoir le traiter. On a toujours un petit problème en France, c'est le manque de confiance dans nos services de sécurité. Et alors qu'aujourd'hui, on peut pas, là, ils font un boulot considérable. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Du coup, quelqu'un qui nous écoute, là, qui est confronté à de potentiels cas de radicalisation, aujourd'hui, il peut faire quoi ?
Ah ben, y a une chose très simple. La plus rapide, c'est le numéro vert qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur et le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Avec ce numéro vert que vous trouvez partout sur les sites internet, il n'y a aucun problème pour pouvoir contacter tout de suite quelqu'un. Il y aura des professionnels pour vous écouter et puis pour faire le nécessaire si c'est utile.
Et pas forcément la hiérarchie, alors plutôt ce numéro vert qui est spécialisé, c'est ce que vous dites.
En tout cas, c'est à mon avis le plus sage pour éviter l'amalgame, la stigmatisation et surtout l'efficacité dans le traitement du problème.
Merci beaucoup Médéric Chapiteau d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie à l'Université de Toulouse et je redonne le titre de votre livre « Le sport, une faille dans la sécurité de l'État ». C'est chez Henrik B. Édition et je remercie également Jérôme Florentville qui a assuré ce duplex. Merci à vous.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
7h54 sur Europe 1 à suivre la canicule et le mercure qui continue de monter en flèche. Nous serons à Clermont-Ferrand. On attend là-bas 41 degrés aujourd'hui. Un record, on y va dès le début du journal de 8h. Et puis dans une minute, deux jeunes Quimpérois de 8 et 11 ans, nouvelle star mondiale sur Internet. Ce sera la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
Et vous continuez à nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Très bon réveil à tous. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Sébastien.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ce matin, une chanson que vous allez reconnaître et une vidéo qui fait le tour du monde.
Voilà, ça commence par un éclat de rire, celui d'une petite fille brune à queue de cheval. Je vous présente Nora, elle a 8 ans, elle vous chante un classique de la musique cubaine, 20 años.
Fui la loción de tu vida.
Vous pensez peut-être que nous sommes à La Havane ? Bah non les amis, surprise, nous sommes à Quimper, en Bretagne, sur une terrasse. Oui, Nora est une petite Française. Derrière elle, il y a son grand frère, Isaac, 11 ans. Nicolas, le papa, à la guitare. C'est la mère, Catherine, qui immortalise la scène. Toute simple, mais assez magique. Écoutez bien, plus de 20 millions de vues en quelques jours. Et Céline Dacosta danse à côté de moi. Plus de 20 millions de vues, c'est ce qu'on appelle le miracle des internets. Clic et claquement de doigts, Isaac et Nora sont devenus des stars des réseaux sociaux bien au-delà de Quimper dans le monde entier. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire leur papa, musicien, lui qui est né à Séoul, en Corée du Sud, adopté en France, avec en plus cette chanson en espagnol. Vous avouez que ça fait quand même très musique sans frontières. Alors, cette petite famille bretonne a pris l'habitude de poster des vidéos, de faire des concerts, de chanter. Elle promet de ne rien changer malgré cette folie qui la dépasse un peu. Et vous savez quoi ? C'est ce qu'on aime justement dans cette histoire, ce côté frais, spontané, ce petit moment de grâce. Alors on dit tout simplement merci à Nora, à Isaac et à leurs parents.
Les enfants sont formidables, comme disait Jacques Martin. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. La vidéo, on la retrouve sur Twitter, facilement.
Oh, partout. Vous tapez Isaac Nora, direct.
Merci Jean-Philippe, 7h58.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Sébastien.
Laurent, des orages signalés en Normandie.
Je voulais en parler justement, parce qu'ils se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi, et je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé, on n'en les a pas suffisamment évoqués. Des orages terribles qui ont frappé à la fois Bolbec, Lisieux, tout le Calvados, dans la nuit de lundi à mardi. Il est tombé en 2 heures, 1 mois de pluie, et les dégâts sont considérables. Et je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous ces gens qui habitent cette région. Alors, c'est vrai que l'information a été un peu effacée par la chaleur et la canicule. On ne parle que de ça depuis 4 jours, on oublie souvent l'essentiel. Pardon, chers amis. En ce qui concerne les températures, 41 degrés à Brive et Limoges cet après-midi, 40 degrés à Auxerre et Périgueux, Bourges, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy, Colmar, Lyon, Épinal, entre 38 et 39, 37 à Dijon, 36 à Langres, 35 à La Rochelle et Paris, 34 à Rennes. Vous voyez des températures très élevées. Nous entrons dans le point dur, dans le point difficile de la canicule. C'est aujourd'hui que ça va se passer, demain et après-demain. 28 à Lille, 26 à Caen, 25 à Brest et 20 degrés à Saint-Brieuc, car dans ces régions, il y a encore, notamment sur la Bretagne et la région nantaise et la Vendée, il y a encore des nuages et quelques pluies ou quelques orages dont il faudra faire attention dans le courant de la journée. Mais ensuite, la chaleur va également arriver chez vous. Bon, c'est 3 jours difficiles à passer. Et on vous en parle, et on vous en parle, et on vous soutient.
Et on vous accompagne. Courage à vous, si vous vous réveillez ou si vous partez travailler ce matin. Merci d'être avec nous.
Merci pour votre confiance. Et bienvenue en ce mercredi matin, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Sébastien Krebs.
Et avec David Doucan pour le journal de 8h. Bonjour David.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La canicule qui va se renforcer et s'étendre. Plus de chaleur encore et dans davantage de régions. Problème, les établissements scolaires sont souvent vétustes et mal isolés. Presque impossible de garder les enfants au frais. Page complète dès le début de ce journal. La radicalisation dans les services publics. Le rapport parlementaire était très attendu. Il pointe une menace persistante dans les secteurs du pénitentiaire, de la santé et des transports. Et puis, les fans de la saga Toy Story seront ravis. Un quatrième opus sort aujourd'hui.
8h12, Vincent Hervouet, l'homme fort du Brésil, contraint de renoncer. Jair Bolsonaro abandonne son projet de libéralisation des armes. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Europe 1.
Les températures vont encore grimper, la chaleur va gagner les régions de l'Ouest, jusqu'ici plus ou moins épargnées. Il y a une ville qui s'est transformée en étuve, c'est Clermont-Ferrand. Vous y passez la semaine pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois, et si j'en crois les prévisions, cela va être très dur aujourd'hui.
Effectivement, Météo France prévoit 41 degrés à l'ombre cet après-midi, au-delà du record de température de 40,7 qui date de juillet 1983, il y a 36 ans. Et quand on demande aux Clermontois ce qu'ils comptent faire aujourd'hui, la réponse est claire pour Josiane, une retraitée.
Mon programme, c'est de rester à la maison. J'ai pris de l'eau d'avance. Et si je dois sortir, que j'ai besoin de quelque chose, de sortir de bonne heure, à marcher à l'ombre, il n'y a que ça à faire.
Delphine tient un restaurant place de Jaux dans centre-ville, une place qui risque d'être désertée.
Traverser la place sur le coup de l'après-midi, là où il y a un pic de chaleur, c'est une souffrance. Il y a très peu d'ombrage, la pierre réverbère beaucoup. Donc oui, les gens cherchent la fraîcheur.
Trouver la fraîcheur à Clermont, pas simple, alors on s'adapte comme Jean de passage ici pour son travail.
Travailler plus tôt le matin, de manière à terminer plus tôt le soir. Et puis après le travail, on ira se balader et puis on profitera de la douceur de la soirée, quoi.
Sauf que la soirée et la nuit prochaine s'annoncent tropicales avec plus de 25 degrés attendus.
Jean-Gabriel Bourgeois, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Clermont-Ferrand toute cette semaine. Merci à vous Jean-Gabriel. Alors parmi les sujets d'inquiétude, il y a aussi les établissements scolaires, bien souvent mal isolés. Eh bien, certains enseignants demandent tout simplement la fermeture des locaux, comme par exemple à l'école Ernest Renan de Vénissieux en banlieue lyonnaise, Jean-Luc Bougeon.
Ernest Renan, c'est l'école typique des années 60. 10 classes dans un grand bâtiment rectangulaire sans volets et sans isolation et une cour bétonnée avec très peu d'arbres. Noémie Kenon a installé un thermomètre dans sa classe de CM2 au deuxième étage, baignée de soleil.
33 degrés à 10h50 du matin.
Cet après-midi ?
On va monter jusqu'à 35-36. Donc on travaille plus du tout l'après-midi. C'est trop chaud, c'est pas possible pour eux. Là depuis ce matin, j'en suis à la 10e vaporisation. Ça doit être la 8e fois que je leur sers de l'eau parce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent de malaise et qu'ils se sentent mal. Donc ouais, c'est compliqué.
Et justement, Karim, l'un de ses élèves, ne se sent pas bien du tout depuis ce matin.
Horrible. Il fait super chaud et on a mal à la tête. La maîtresse, quand on a fini notre travail, elle nous emmène dans le couloir parce que dans le couloir, il fait plus frais. Il fait trop chaud en classe.
Du coup, avec des températures qui vont encore grimper de 3 ou 4 degrés demain et vendredi, le directeur Bernard Bagadja réclame une mesure d'urgence au ministère et à l'inspection d'académie.
Nous, on a fait la demande d'une fermeture d'école exceptionnelle parce que c'est vrai que c'est pas jouable. Ici, concrètement, on est dans un cas où on peut pas fonctionner et on a des craintes pour la santé des enfants. C'est pas raisonnable.
Ce matin, il n'a toujours pas reçu de réponse à sa demande. Demande pas forcément appuyée par tous les parents, car certains n'auront pas la possibilité de trouver une solution de dernière minute pour faire garder leurs enfants durant 2 jours. Vénissieux, Jean-Luc Bougeon, Europe.
Attention aussi à la pollution qui s'installe à Paris et à Lyon. La circulation différenciée a été déclenchée. Seuls les véhicules avec vignette 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Ceux qui rouleraient avec une critère 3, 4 ou 5 s'exposent à une amende, 68 euros pour un véhicule léger, 135 pour un poids lourd. Les vignettes critères 3, 4 ou 5, c'est tout de même 60% du parc automobile en Île-de-France.
Il est 8h04 sur Europe 1. Leur rapport sur la radicalisation dans les services publics était très attendu.
Oui, les députés Éric Pouillat, LREM, et Éric Diard, Les Républicains, présentent aujourd'hui leurs conclusions. Il apparaît que l'éducation et la sécurité sont peu touchées, mais la menace est en revanche persistante dans les prisons, dans la santé ou les transports, avec une inquiétude particulière concernant la RATP. Le rapport y constate un communautarisme qui doit faire l'objet, je cite, de la plus grande attention. Écoutez ce reportage signé Victor Dolande.
Dans ce centre de dépôt de la région parisienne, pas facile d'aborder le sujet. Communautarisme, le mot fait peur à certains chauffeurs de bus. Ils ne préfèrent pas en parler. Martine, elle, l'a suffisamment vécu à ses dépens pour pointer du doigt certains de ses collègues qui refusent de lui dire bonjour.
Les mecs qui disent pas bonjour parce que c'est dans leur religion et puis voilà quoi.
Mais ça va un peu mieux.
Ouais, depuis qu'il y a une charte, là-dessus. Ces gens-là, ils ont réussi à soit ils sont partis, soit ils sont sur une ligne où on les oublie un petit peu en fait.
Cette charte de la laïcité et de la neutralité dans l'entreprise a fait beaucoup de bien au sein de la RATP. Certains agents prient encore sur leur lieu de travail, mais cette situation reste marginale selon le rapport. Pour Youssef, chauffeur de bus qui se déclare musulman pratiquant, la religion n'a rien à faire au travail.
C'est strictement interdit de faire la prière dans le dépôt, dans le bus. Si vous voulez faire votre prière, c'est à la maison, pas au travail.
Les agents que j'ai pu rencontrer vont tous dans le même sens. La direction de la RATP doit agir encore plus fort, disent-ils, pour lutter contre le communautarisme.
Victor Dolande pour Europe 1. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite officielle au Japon avant le G20 qui se déroulera en fin de semaine à Osaka. Le président français en profitera pour échanger en tête-à-tête avec Donald Trump au sujet de la crise iranienne. Et Téhéran fait savoir ce matin que le président Hassan Rouhani s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron et l'a assuré, je cite, que l'Iran ne cherche la guerre avec aucun pays.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, un papa et sa petite fille morts sur une rive du Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis. Cette photo est massivement diffusée par les chaînes de télévision américaines. Nous y serons dans un instant. À tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Sébastien Krebs.
La suite du journal David Doucan avec cette photo qui bouleverse l'Amérique depuis quelques heures.
Oui, on y voit les cadavres d'un père et d'une enfant, sa fille, noyée dans le Rio Grande alors qu'il tentait de traverser la frontière depuis le Mexique. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Cette image rappelle forcément celle d'Aylan, ce petit garçon syrien mort sur une plage de Turquie.
Oui, on est saisi par le même sentiment d'effroi en regardant cette image. Les deux corps à moitié immergés, sur le ventre, visage dans l'eau, entouré de roseaux. La fillette est coincée dans le t-shirt de son père, son petit bras autour de sa nuque. Selon l'agence AP qui publie cette image, l'homme s'appelait Oscar Alberto Martinez Ramirez. Sa fille, Valeria, avait 2 ans. La famille venait du Salvador, fuyant la pauvreté et la violence des gangs. Et cette image terrible pourrait devenir le symbole de la crise migratoire aux États-Unis, tout comme celle du petit Syrien Aylan l'avait été pour l'Europe. En effet, les passages illégaux à la frontière avec le Mexique ont explosé ces derniers mois et les autorités américaines n'arrivent plus à faire face à l'afflux, notamment de mineurs. On a appris hier que des centaines d'enfants migrants avaient été détenus dans des conditions insalubres, pas de douche et les mêmes vêtements sales pendant des semaines, des bébés sans couche, de la nourriture à peine décongelée et pas de matelas pour dormir, juste le sol en béton. Ces révélations d'une ONG ont conduit hier à la démission du chef par intérim de la police des frontières et l'opposition démocrate dénonce, elle, la politique inhumaine de l'administration Trump qui a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité.
Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon, merci à vous Xavier.
Fête de la musique à Nantes, la hiérarchie policière mise en cause.
Oui, vous le savez, les policiers sont intervenus pour interrompre une soirée électro sur les quais de Loire le soir de la fête de la musique. Dans la confusion, 14 personnes sont tombées à l'eau, l'une d'elles est toujours portée disparue. Une enquête a été confiée à la police des polices. Mais écoutez, Philippe Boussion, ce responsable régional du syndicat Unité SGP Police, pointe directement du doigt la hiérarchie.
Quand on intervient à 15 contre 1000 personnes dont on sait que l'état alcoolique ou sous stupéfiant est avancé, on ne peut que s'attendre à ce que la situation dégénère. Là, on a la responsabilité d'un donneur d'ordre qui, pour nous, a mis nos collègues dans une situation qui n'aurait jamais dû être. Surtout qu'on avait les moyens ce soir-là, on avait une compagnie de CRS qui n'était pas loin qui arrivait, on aurait pu attendre et intervenir en sécurité pour les collègues, en sécurité pour les policiers. Et quand les policiers interviennent en sécurité, on intervient en sécurité pour tout le monde.
Est-ce que vos collègues n'auraient pas pu tout simplement dire « non, on n'y va pas » ?
C'est facile à dire maintenant, mais vous êtes sous les ordres d'un chef de service, quoi, d'un commissaire de police, quoi, qui est sur place, qui est avec vous, là. Il vous dit « on y va », etc. Les collègues n'ont peut-être pas pensé, moi, mais en attendant, ils sont sous les ordres d'un responsable qui a été ce soir-là, à nos yeux, irresponsable.
Philippe Boussion du syndicat Unité SGP Police avec Pierre Decossette pour Europe 1.
Allez, on termine avec l'actualité du cinéma. 23 ans après le premier opus et le retour de Toy Story numéro 4. Ça aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Un quatrième épisode qui ravira les fans. Et puis, c'est l'occasion aussi de profiter de la clim au cinéma, tout en se divertissant. Mathieu Charrier.
Les animateurs de Pixar ont décidé de parler de quête d'identité dans ce quatrième volet, à travers le personnage de Fourchette, qui est une cuillère fourchette en plastique blanc que l'on trouve dans des plats préparés de grande surface.
Et voilà, je vous présente Fourchette.
Bonjour.
Ah,
oh,
C'est une cuichette.
La petite Bonnie vient de rentrer de son premier jour d'école où elle a bricolé cette cuichette avec un trombone, un chewing-gum et deux petits yeux. Sauf que Forky n'a qu'une idée en tête, rejoindre sa poubelle. Woody, Buzz et ses amis vont tout faire pour l'en empêcher car ils ont bien compris qu'elle était importante pour la petite Bonnie qui en a fait son nouveau jouet fétiche. La voix française de Forky, c'est Pierre Niney.
Parce qu'une petite fille l'a transformé en jouet en lui donnant des yeux, une bouche, des bras, en bricolant ça à partir de son imagination, Forky va naître. Et parce qu'un enfant l'a décidé, ça va devenir une âme et quelque chose qui parle et qui rêve.
On va sauver une fourchette!
Alors certes, il y a moins de surprises et de magie lors de la sortie du premier Toy Story, mais les gags ingénieux s'enchaînent. Le duo Woody Buzz l'éclair est éclaté, laissant place à plus de personnages féminins, notamment une bergère en porcelaine qui manie le bâton ou deux poupées maléfiques directement tirées de Shining de Kubrick. Féminisme et recyclage, ce Toy Story s'ancre une nouvelle fois dans l'air du temps.
Le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier.
Et ça a l'air pas mal du tout. Merci beaucoup, c'était le journal de David Doucan, 8h12.
La matinale d'Europe 1. Sébastien Krebs.
Coup d'œil présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Sébastien.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour.
Les Brésiliens ne pourront pas circuler avec une arme et en avoir trois autres à la maison. Le président Bolsonaro renonce à ses décrets sur la possession et le port d'armes.
Oui, le Sénat les avait déjà retoqués et la Cour constitutionnelle devait les enterrer. Aujourd'hui même, le président a pris les devants. Jair Bolsonaro est un politicien qui a de l'expérience. Il a passé 20 ans sur les bancs du Parlement. Alors, il rengaine ses décrets, mais on peut être sûr qu'il reviendra à la charge, car ce n'est pas n'importe quelle promesse de campagne. Il a été élu avec ses propositions choc, libéraliser l'achat et le port d'armes, amnistier les policiers coupables de crimes, ramener la majorité pénale à 16 ans et en finir avec les aménagements de peine. Il y a un proverbe brésilien qui dit « Un bon bandit est un bandit mort ». C'est ce qu'a promis Bolsonaro à ses électeurs. Ils pourront tuer les bandits et ceux qu'ils ont arrêtés resteront derrière les barreaux. La majorité des Brésiliens a pensé que ça valait le coup d'essayer, qu'ils pouvaient croire un candidat qui a failli mourir d'un coup de couteau. La sécurité est leur problème numéro un, loin devant le chômage, les pots de vin ou l'écœurante démagogie des élites. Les chiffres sont effarants. 500 000 homicides en 10 ans. Un toutes les 10 minutes, ce sont plus des faits divers, c'est un bilan de guerre civile. 500 000 morts en 10 ans, c'est davantage de victimes que toutes les guerres au Liban, en Algérie, en Libye, au Sahel, en Ukraine, en Birmanie et au Yémen réunis depuis 40 ans.
Et pourtant, on en parle beaucoup moins et on ne pense pas à cette violence quotidienne quand on s'inquiète du Brésil.
Ben, on y pense quand on vit sur place, quand on meurt sur place d'une balle perdue. Comme tous les pays en convulsion, les Brésiliens maudissent l'État si faible, indigne, la lâcheté générale. Et Jair Bolsonaro a compris, il s'est fait élire avec un discours provocant, comme Rodrigo Duterte aux Philippines qui se vantait de tuer les dealers. Mais la réalité lui échappe. Il n'y a pas de pouvoir fort au Brésil. Il est incapable de passer aux actes. Il a tenu des discours fascistes, mais ce n'est pas Mussolini. Ce n'est pas Pinochet qui avait l'armée à ses ordres. Ni même Donald Trump qui tient tête à Washington et au reste du monde depuis 2 ans. Jair Bolsonaro est un politicien assez ectoplasmique qui peine à faire vivre le personnage qu'il a inventé pour se faire élire.
Le regard de Vincent Hervouet. Merci beaucoup, c'était l'édito international.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
8h14 sur Europe 1, vous restez avec nous dans 2 minutes. L'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Elle est la ministre de la semaine. La canicule s'installe en France et le mouvement de grève dans les services d'urgence aussi. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, sera mon invitée.
Dans un instant, à tout de suite.
Il est 8h16, Sébastien Krebs.
Et c'est l'heure de l'interview politique. Audrey Crespo-Mara, vous recevez la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Depuis le début de la canicule, vous répétez sans relâche les mêmes conseils de prudence aux Français. Si cette vague de chaleur faisait des victimes, vous sentiriez-vous malgré tout responsable ?
Responsable, peut-être que j'aurais l'impression que nous n'en avons pas encore fait assez, mais sincèrement, tous les services de l'État sont mobilisés aujourd'hui. Tous les ministres dans leur champ de compétences avec les publics qui sont les leurs se sont mobilisés. Je pense à Muriel Pénicaud dans le monde du travail qui a fait passer un certain nombre de consignes aux entreprises. Je pense évidemment à Jean-Michel Blanquer qui a fait passer des consignes aux enseignants et qui est en train évidemment de reporter le brevet. Je pense à Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a fait passer des consignes aux associations sportives. Hier, je viens de Normandie pour les SDF, donc voilà, tout le monde est sur le pont.
Hier, le Rassemblement national a tenté de lancer une polémique en vous reprochant d'en faire trop, de faire trop de com.
Alors, en réalité, la com a évolué. Nous savons que les personnes âgées aujourd'hui, notamment dans les EHPAD, ont bénéficié des plans canicules et les EHPAD sont très bien équipés aujourd'hui pour protéger les personnes âgées, mais on se rend compte que la mortalité a évolué parce que le grand public en fait ne prend pas de précautions. Souvent, les gens sont dans le déni, continuent à faire du sport. Et donc, bon, c'est une polémique inutile parce que tant qu'il y aura des morts et des morts inutiles liées à la canicule, je pense que mon travail est de rappeler les consignes et de faire en sorte que tout le monde les applique.
En multipliant les conseils de prudence, on a l'impression que les ministres se comportent avec les citoyens un peu comme des parents avec leurs enfants. Est-ce que c'est le rôle de l'État ?
Non, c'est de l'information. En réalité, je pense que beaucoup d'entre nous n'avaient pas réalisé qu'il y avait eu beaucoup plus de noyades l'année dernière en période de canicule parce que tout simplement les enfants, les jeunes, les adultes se rapproche des cours d'eau pour se rafraîchir et que le risque de noyade est augmenté. Je suis obligée de le dire, c'est une information.
Mais depuis la canicule de 2003, qui a fait plus de 15 000 morts en France, je le rappelle, on a l'impression que tous les ministres de la Santé sont angoissés quand la température monte, augmente.
Non, je ne suis pas angoissée. Il y a un plan canicule que je dois mobiliser. C'est ce que je fais. D'ailleurs, je l'avais préparé au mois de juin avec toutes les parties prenantes. J'ai besoin évidemment des maires qui se mobilisent avec les centres d'action sociaux qui appellent les personnes âgées à domicile ou les personnes handicapées. J'ai besoin évidemment du ministère de l'Éducation nationale. J'ai besoin de tout le monde et ce plan nécessite à chaque fois qu'on rappelle les consignes pour que tout le monde se sente concerné.
Hier, le patron du syndicat des directeurs d'EHPAD, Pascal Chambert, a estimé que si la vague de chaleur se poursuivait jusqu'à la fin août, elle provoquerait la mort de 5 à 7 000 personnes. Est-ce que la ministre de la Santé trouve ça crédible ?
Alors, je n'ai pas fait ces calculs, et puis ça dépend évidemment de la température nocturne, mais il ne faut pas se leurrer, des vagues de chaleur intenses, même si l'on prend énormément de précautions, chez des personnes très fragiles ou malades, peut entraîner des morts prématurées.
Donc il ne peut pas y avoir zéro mort à l'issue de cette canicule.
Il ne peut jamais y avoir zéro mort à l'issue d'une canicule, notamment chez des personnes très âgées et très fragiles.
Mais on ne peut pas évaluer
Enfin, en tous les cas, je ne l'ai pas fait parce que ça dépend évidemment de la température et du temps et de la prolongation des épisodes caniculaires. Mais en réalité, nous essayons de prévenir au maximum, mais que chez des gens de 90 ans très fragiles, évidemment, cela aggrave la situation.
Agnès Buzyn, alors que la canicule frappe la France, la grève des urgences ne cesse de prendre de l'ampleur. Et depuis ce matin, les sapeurs-pompiers sont de la partie. Ces mouvements sociaux risquent-ils d'aggraver le sort des victimes de la chaleur ?
Ce sont des mouvements sociaux qui, dans les métiers qui sont les leurs, c'est-à-dire les pompiers ou les soignants, s'expriment en mettant un brassard, mais les gens viennent tout de même travailler.
Forcément. Par exemple, lundi soir, toutes les infirmières des urgences de l'hôpital de Besançon se sont mises en arrêt maladie pour 15 jours. Est-ce que vous concevez qu'elles puissent être épuisées à force de travailler en sous-effectif ?
Elles peuvent évidemment être fatiguées et je suis absolument convaincue que certains soignants sont épuisés du fait du rythme, évidemment. Et puis, il faut savoir aussi que le travail aux urgences est éprouvant psychiquement. On voit des cas terribles, on voit la douleur des gens, on voit des choses très difficiles. Ça peut être très difficile pour un jeune soignant, même un soignant plus âgé d'ailleurs, de subir ça au quotidien. Donc, je pense qu'à l'échelon individuel, c'est tout à fait normal que des gens, à un moment, se mettent en arrêt de travail, soient fatigués et expriment.
Ils ne dévoient pas l'arrêt de maladie, comme
Mais
vous avez laissé entendre à la Riboisière.
Quand 15 personnes, le même jour, décide de se mettre en arrêt de travail, c'est autre chose. On signe autre chose.
C'est-à-dire, voilà, on signe quoi ?
On signe la volonté de faire connaître les difficultés. C'est plus...
Et c'est légitime aussi. Et c'est légitime aussi.
Moi, je pense qu'ils mettent quand même en situation difficile leurs collègues qui ont été amenés à poursuivre leur journée de travail après 12 heures de travail et qui ont été obligés de continuer dans la nuit parce qu'ils ne peuvent pas laisser un service d'urgence vide. Je pense qu'il y a d'autres moyens de revendiquer, notamment parce que nous avons largement écouté les revendications des urgentistes et des personnels soignants aux urgences et nous avons apporté des solutions et
Alors
nous allons encore en apporter.
Que vous avez annoncé, c'est une enveloppe de 15 millions afin de renforcer les effectifs des urgences pendant l'été.
Oui, pour les 2 mois qui viennent.
Voilà, les 15 millions, ça correspond à un seul poste par hôpital.
Oui, mais tous les services ne sont pas du tout en difficulté. Il y a des services d'urgence dans des zones assez rurales où le nombre de passages est faible, où on est à 2 passages aux urgences par heure, et ce sont des services qui ne réclament pas de personnel supplémentaire. Donc attention, on ne peut pas faire ce calcul macroscopique. En fait, il faut aider les services qui sont en surchauffe parce qu'il y a énormément de passages.
Au total, vous débloquez 70 millions d'euros pour résoudre le conflit social aux urgences. Mais non, le mouvement social continue de s'étendre.
En fait, ça n'est pas tout à fait cela. En fait, je débloque une enveloppe immédiate pour pouvoir recruter du monde là où il y a des tensions et un manque de personnel. Et ça, c'est pour les 2 mois qui viennent, notamment parce qu'il y a des départs en vacances et que certains services sont en tension. Et au-delà de ça, j'ai mis en place une prime de risque. Parce que le travail aux urgences est particulièrement éprouvant, les menaces, les incivilités. Et donc, je tiens compte de cette spécificité. C'est une prime de risque qui représente
100 euros de plus par mois.
Voilà, 100 euros net de plus par mois pour tous les personnels non médicaux.
Et ils demandent 300 euros d'augmentation de salaire.
Donc là, c'est 100 euros de prime par mois. Et puis, donc c'est 55 millions tous les ans, évidemment, parce que cette prime est pérenne, ce n'est pas une prime unique, one shot, c'est vraiment tous les mois sur le long terme. Et puis, j'ai débloqué également des budgets pour rénover les services d'urgence. Beaucoup
et vous annoncerez d'autres choses.
Sont trop vétustes, beaucoup sont trop petits et on doit les aider à se moderniser.
Vous annoncerez d'autres choses.
Oui, puisque la mission sur les urgences est en cours et donc j'attends une remontée de propositions du professeur Carly et du député Thomas Meynier qui doit me faire leurs propositions dans les 2 mois qui viennent.
Agnès Buzyn, une enquête parlementaire choc sur la radicalisation dans les services publics, parmi lesquels les hôpitaux, est rendue publique aujourd'hui. Quelles sont les mesures prises dans les hôpitaux quand on est confronté à des soignants qui sont radicalisés ou à des patients qui sont radicalisés?
Alors, les soignants, il y en a peut-être, mais les cas ne me sont pas remontés. Donc, j'imagine que les directeurs d'hôpitaux gèrent au cas par cas la situation. En tous les cas, je n'ai pas de signal d'alerte dans le monde hospitalier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça ne doit pas être un phénomène de grande ampleur.
Concernant les patients, est-ce qu'on peut lever le secret médical quand on est confronté à un patient radicalisé?
Les règles sur le secret médical sont très claires. On peut déroger au secret médical quand un patient met sa propre vie en danger ou en danger celle des autres. Donc on reste dans les règles de dérogation du secret médical.
Donc il y a suffisamment de règles en place.
Oui, absolument. C'est faisable. Si un soignant pense qu'un patient radicalisé va passer à l'acte, il peut tout à fait le signaler.
Merci Agnès Buzyn.
Je vous en prie.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, 8h25.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et on parlait de la canicule, on n'en a pas tout à fait fini avec cette canicule. On y revient avec Laurent Cabrol dans un instant, l'essentiel de l'info. Et puis à 8h30, la revue de presse de David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine avec Jérôme Lacroix. J-2 pour les Bleus avant France-USA.
Suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Sébastien.
Laurent, ça grimpe, ça continue de grimper encore aujourd'hui.
Oui, nous atteignons pas le point culminant, mais presque, de la canicule, cet après-midi, avec 41 à Brive, 40 à Périgueux, dans ce secteur, là, 39 du côté de Bordeaux, de Vichy, Clermont-Ferrand, dans l'Est, et Épinal, Nancy, Colmar, nous avons du 38, 38 à Lyon, 37 à Dijon et Toulouse, La Rochelle, Paris, autour de 35, 34 à Rennes, 31 à Nice, 28 à Lille, 26 à Caen et 20 degrés ou 19 degrés à Saint-Brieuc. Alors, hier soir, pratiquement à 19h, 70% du pays avec des températures encore supérieures à 30 degrés et le taux d'humidité est de 60 à 80%. C'est important ce taux d'humidité parce que cette chaleur, cette canicule est humide, ça veut dire que lorsque nous transpirons, eh bien, la transpiration ne peut pas s'évaporer, ne peut pas s'en aller, ne peut pas sécher puisque nous avons ce vent qui est trop humide et qui vient coller en plus nos vêtements sur le corps. Donc c'est une respiration difficile et c'est tout ce qu'on appelle un très grand inconfort, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc ça va durer encore demain, après-demain. Les dernières prévisions, je le dis tout de suite à nos amis, laissent entendre qu'effectivement, à partir de ce dimanche, surtout de lundi, nous retrouverons vraiment des températures respirables, d'abord sur la moitié nord, ensuite sur la moitié sud, mais il y a 2-3 jours pénibles à supporter.
La chaleur et la moiteur, nous dit Laurent Cabrol. Courage, hein, courage à vous, on est avec vous dans cette chaleur. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans un instant, la revue de presse de David Abiker.
Bien manger, démêlons le vrai du faux avec Éric Lemaire, président d'AXA Prévention et ses invités, Karine Le Marchand et le docteur Salman.
Internet est une mine d'informations dont il faut vérifier les sources, surtout quand elles concernent notre santé. Avec AXA Prévention, nous nous attaquons à ces idées reçues. Aujourd'hui, l'eau du robinet. Elle n'a pas très bonne presse, Karine, non ?
Bah je sais pas, moi j'ai toujours lu qu'il fallait privilégier l'eau en bouteille qui contient plus de minéraux et qui serait donc meilleure pour la santé, mais en même temps pour l'écologie c'est pas terrible parce que la consommation de plastique entraîne une pollution énorme. Alors, l'eau du robinet, quand elle a mauvais goût, elle est plus ou moins pure que l'eau en bouteille ?
Je vais vous faire une confidence, à la maison, je bois de l'eau du robinet. Mais j'ai un petit truc, je la verse dans une carafe, je la place au frigo pendant 2 heures, comme ça le chlore a le temps de s'évaporer. Et elle a très bon goût.
Eh bien, c'est bon pour l'environnement et en plus, ça nous fait du bien. Merci à vous deux et si vous avez une autre question, posez-la à notre expert sur Intox Détox, notre service gratuit de décodage sur axaprévention.fr.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 26 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Sébastien Krebs.
À la une, la canicule et déjà une pénurie d'eau. La préfecture des Hauts-de-France indique ce matin que des baisses de pression ont été constatées dans plusieurs communes. La cause notamment l'ouverture intempestive de points d'eau incendie. La préfecture du Nord invite les habitants à respecter les mesures de restriction en cours dans le département. 65 départements en alerte canicule ce matin. Pic de pollution à l'ozone et circulation différenciée à Paris, Lyon et Villeurbanne. Seuls les véhicules qui possèdent une vignette critère 0, 1 ou 2 sont autorisés à rouler. Première visite officielle d'Emmanuel Macron au Japon. Le chef de l'État devrait insister sur l'attachement de la France à l'alliance Renault-Nissan. Et puis la Terre a fortement tremblé ce matin. Entre le Panama et le Costa Rica, 6,3 sur l'échelle de Richter, il pourrait y avoir des dégâts significatifs.
Europe 1. Et tout de suite, on retrouve David Abicard, Sébastien, pour la revue de presse.
Bonjour David.
Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une dans la presse ce matin, le paradoxe de la climatisation.
Ce matin, effectivement, les éditorialistes font chauffer la clim et soulèvent un paradoxe. Dans Nice Matin, Claude Veil s'interroge. Le paradoxe de la clim résume parfaitement le dilemme qui se pose à notre civilisation. La montée des températures réclame que l'on réduise drastiquement la consommation d'électricité et en même temps pousse de plus en plus de terriens à s'équiper de la clim. Il y a plus d'1,5 milliard de climatiseurs dans le monde. Il y en aura le double dans 10 ans. Et dans l'Est républicain, Philippe Marcassi poursuit le raisonnement. Le pic de consommation de cette électricité qu'on nous demande de réduire au nom du réchauffement climatique aura lieu demain, jour de chaleur record. La faute à la climatisation. Paradoxalement, encore un paradoxe, le développement de l'air conditionné ne fait qu'accentuer la menace qui pèse sur la planète. Alors pour compenser les climatiseurs qui tournent à plein régime, on roulera moins. Restriction de circulation, titre Le Parisien aujourd'hui en France. C'est le débat inépuisable entre le trop et le pas assez de prévention, écrit Dominique Garraud dans La Charente Libre. Se profile un désarroi commun devant l'inconnu climatique, ces dérèglements et l'incapacité de nos sociétés industrialisées à les maîtriser. En clair, on ne sait plus trop, par ces chaleurs, si on appartient à la génération climat ou à la génération clim.
Un dessin dans Le Parisien aujourd'hui en France résume assez bien ces incohérences.
Il est signé Rançon, le dessin montre une voiture pleine à craquer de passagers. L'un d'eux demande au conducteur « Mais comment se fait-il que votre voiture à vous peut circuler ?» Et le conducteur de répondre « Elle n'a pas le droit de circuler, mais avec le covoiturage, on pourra partager la contravention. » Le Parisien aujourd'hui en France qui est allé à la rencontre des artisans, de tous ceux qui travaillent et dont les véhicules ne sont pas munis de la vignette critère 1 ou 2. « Je vais rouler quand même, je n'ai pas le choix », explique Sidi au quotidien. Il s'agit d'une mesure couperet qui touche directement les commerçants, les livreurs, les artisans les plus modestes. Et du jour au lendemain, regrette Bernard Haddad, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui pointe l'absence de services de location d'utilitaires électriques et une politique de la canonnière. Et grâce aux données automobiles, on sait quels départements seront les plus pénalisés en région parisienne. 70% des voitures immatriculées en Seine-Saint-Denis seront interdites aujourd'hui contre 48% des véhicules dans les Hauts-de-Seine. De là à parler d'apartheid climatique, il n'y a qu'un pas franchi par l'humanité ce matin, avec d'un côté les riches qui peuvent se préparer au réchauffement de la planète et de l'autre les pauvres qui doivent subir. Je ferme les guillemets.
La voiture, on en parle aussi sur le site Les Jours.
Suf qui peut, titre Les Jours qui démarre une série sur un vrai mystère automobile. Pourquoi donc le SUV, le Sport Utility Vehicle, est-il devenu en quelques années le véhicule préféré des automobilistes terriens ? C'est gros, c'est lourd et ça pollue et pourtant ça domine le marché. Les Jours ont enquêté, contacté des techniciens chez plusieurs fabricants et s'interrogent sur cette mode du SUV qu'ils considèrent comme être la pire des voitures au plus mauvais moment. Premier épisode intitulé « Le SUV, le gros du pavé » à lire sur le site Les Jours. Autre véhicule mis en question par les amis de l'environnement, ceux qui permettent d'aller vers Mars et de partir à la conquête de l'espace. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans Libération, des membres de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, Toulouse capitale de l'aérospatial français, eh bien ces scientifiques demandent à Thomas Pesquet de se prononcer contre l'exploration spatiale, estimant qu'il y a mieux à faire en ce moment sur la planète que de mobiliser des moyens pour envoyer des touristes dans l'espace. À l'heure du dérèglement climatique et de la catastrophe écologique, la conquête spatiale est-elle vraiment une priorité, demande-t-il, et à quel coût écologique ? Alors à ce moment-là, évidemment, on arrête la recherche, on interrompt tous les programmes scientifiques sans rapport avec l'environnement, et bien sûr, on s'occupait de la peste noire en 1492 au lieu de découvrir l'Amérique. On terminera, mon cher Sébastien, en rallumant la climatisation avec une étude publiée dans Science et Avenir et résumée ainsi par Time to Sign Off, la newsletter. La climatisation conçue à partir de modèles scientifiques développés dans les années 60 est, accrochez-vous, sexiste. Oui, la clim est sexiste car ces modèles ont été conçus à l'origine en se basant sur les besoins d'un homme de 40 ans pesant environ 70 kilos. La température de croisière des climatiseurs est donc de 20-21 degrés. Ça convient parfaitement aux hommes et moins aux femmes pour lesquelles la zone de confort se situerait aux alentours de 25 degrés. Autant dire que régler un climatiseur va devenir une question politique. L'été sera chaud, mais pas macho.
La revue de presse signée David Abiker et je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Europe 1, 8h36.
Oui, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix, Europe 1, radio officielle de la compétition.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Les Bleus à la recherche des failles américaines à deux jours du quart de finale France-États-Unis. Le redoutable adversaire est scruté de près. Des Françaises dans le cocon de Clairefontaine, de bonnes conditions qui leur offrent presque un avantage, vous l'entendrez. Et puis appel à toutes les voitures, Eti a disparu. Mais qui est Eti ? Réponse à la fin du journal.
La Coupe du Monde féminine,
Europe 1, radio officielle.
Mais d'abord, Sébastien, je voulais commencer par ces chants, cette ferveur, les supporters des Pays-Bas qui continuent d'enchanter ce mondial à chaque sortie de leur équipe. Ils chantent dans le stade pendant le match de leur sélection, mais aussi plusieurs heures avant les rencontres dans les centres des villes hautes. Hier soir, ils étaient à Rennes. Ils y ont vu leurs joueuses se qualifier pour les quarts de finale. Victoire 2-1 face aux Japonaises. But décisif inscrit sur pénalty dans les ultimes instants. Un pénalty sévèrement accordé pour une faute de main nippone. Ces Néerlandaises qui retrouveront samedi pour leur premier quart de finale en Coupe du Monde. Les Italiennes tombeuses de leur côté 2-0 des Chinoises.
Des nouvelles des Bleus à J-2 du très attendu quart de finale face aux États-Unis. Vous nous parlez ce matin d'un soutien inattendu.
Il s'appelle Clairefontaine, ce soutien, cet allié. Les Françaises sont de retour depuis avant-hier dans le camp de base bleu. Et alors que les Américaines sont, elles, dans un hôtel du centre de Paris avec un terrain d'entraînement à plusieurs kilomètres, les Françaises sont quasiment tout confort à Clairefontaine, des équipements performants, une salle de projection vidéo toute récente, les pelouses des stades d'entraînement parfaites, avec possibilité aussi de balnéo ou de séances de cryothérapie, et c'est bien en période de canicule. Un bon point pour la France déjà, se réjouit Philippe Joly, l'un des entraîneurs adjoints.
Alors oui, c'est un avantage par rapport à une équipe qui est au centre de Paris, surtout avec la météo qu'il y a en ce moment. Oui, c'est un avantage parce qu'on est chez nous. C'est notre maison, c'est là où on a nos repères. On va pouvoir bien récupérer. On a tous les outils pour pouvoir récupérer. On prend Clairefontaine volontiers, quoi.
Et ces deux prochains jours, le staff l'assume, chaleur oblige. Les séances d'entraînement seront très légères. Hier, une sortie à vélo le matin. Et c'est tout en termes d'activité physique. La préparation est tactique sur la base d'images vidéo.
Oui, avec le visionnage notamment du dernier match des Américaines avant-hier face aux Espagnols.
Et oui, parce qu'il y a des motifs d'espoir dans ce match pour les Bleus. Certes, les Américaines ont gagné cette rencontre, mais ce fut difficile. Des points faibles sont identifiés. La défense centrale, un petit peu. La gardienne américaine, un peu plus. Sarah Bouadi, elle-même gardienne, celle des Bleus, est déterminée à trouver les failles.
Ils ont un jeu très poussé vers l'avant où elles se projettent très très vite. On a vu une équipe espagnole qui se sont battues, qui sont bien restées en place, qui les ont mis aussi en difficulté. Voilà, je pense que le staff va bien analyser aussi ce match-là, analyser les matchs précédents et mettre en place une tactique qui va pouvoir les mettre en difficulté.
Et aujourd'hui, les Bleus en immersion, avec une journée huis clos, fermée au public et aux médias. Allez Sébastien, une dernière info pour finir.
Oula.
Alerte enlèvement, oui. Etty a disparu, je vous le dis, je vous le donne en mille, elle a même été volée. Mais qui est Etty? C'est la mascotte du mondial, vous l'avez peut-être aperçu, ce poussin jaune en marinière. Dérobé jeudi dernier en pleine nuit au Parc des Princes, 5 personnes sont parvenues à pénétrer dans un local du stade. Ils se sont emparés d'un sac dans lequel se trouvait le costume. Il doit peser son poids parce qu'il mesure quand même 2,15 m, ce costume. Une plainte a été déposée. Bon, rassurez-vous, il y a d'autres costumes disponibles et Etty devrait être bien présente vendredi au match des Bleus.
Et Etty, téléphone maison, non? Non, ça n'a rien à voir.
D'accord, excellent. Excellent.
Il fallait la faire.
On l'avait pas fait encore.
C'était le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Ne bougez pas, il arrive, la star de ce 7-9, place à Nicolas Canteloup avec Julie dans un instant, à tout de suite.
Il est 8h42.
Et vous l'attendez, le voilà, Nicolas Canteloup avec Julie en direct.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on démarre avec le titre principal de l'actu, avec Nikos qui n'est pas là mais qui est là quand même.
Comme toujours.
Ah, il t'engraisse.
Ouais.
Salut à tous. Je suis parti tout frais. Je suis à Tatène. Ah putain, il fait bon ici. Les amis, je vous aime. On respire, chers auditeurs, ici. Il y a un petit vent marin qui est sympa. Mais je vous écoute parce que j'ai bonne conscience, parce que... Pourquoi j'ai bonne conscience? Je vais tout vous dire. J'ai confié les clés du camion au journaliste qui a un nom parfait pour animer une matinale, Sébastien Crêpe.
Mais non. Ah ben
ça y est,
Sébastien Crêpe, le meilleur avec Jean-Pierre Biscotte, avec Bertrand Pancake.
Également, ouais.
Je salue toute l'équipe d'Europe 1, mais je suis pro, je suis pro, je vous fais l'info surround of today tout de même, oui, je vous la donne. C'est la circulation alternée, car je vous écoute, je suis au cœur de l'actu. La circulation alternée à Paris, mais surtout l'animation alternée, vu que je me suis barré. À toi, July. À toi, Sébastien Crêpe. N'oublie pas un peu de sucre ou de confiture. Je vais me baigner. Salut.
Salut, Nikos.
Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne.
Vous revenez quand même, hein, avant la fin de la saison.
Tiens, merci, un espadon à droite. Oh, une tortue.
Oui, c'est bon. Allez, allez. L'image a fait sourire dans les rédactions. La carte de la vague de chaleur à la forme d'une tête de mort qui recouvre la France.
Repentez-vous.
Philippe de Villiers, bonjour. Ah ben, ça m'aurait étonné. Tiens, vous
bonjour,
pas.
Femelle.
Oh, du don, eh, ouais.
Va des rétro à Liagas. Il s'est sauvé, il a bien fait, le mécréant.
Ah, bah, dis donc, ça commence bien tout ça.
Oh, ah, tu peux me servir tes sarcasmes d'hystérique à mamelle. Oh, mais la vérité, oui, la vérité est là. La mort, la tête de mort recouvre la France. C'est le diable, c'est Belzébuth en calbut qui va tous nous cuire le cul. Car nous avons, oui, vous et moi tous, surtout vous tous de cette table, vous avez tous péché. Je l'avais dit, voilà notre punition, oui, vos auditeurs, oui, vous les citoyens, notre punition pour autoriser le droit de vote des femmes, enfin, de l'avoir dit, c'est, ne me coupe pas, vous, la punition pour avoir légalisé les mini-jupes, marié les homosexuels et laissé jouer au football les goudous moustachus.
Oh là là, oh,
le châtiment divin est tombé.
Bon, écoutez, ça suffit, hein. Arrêtez, non, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur de Villiers, avec vos clichés sur les femmes homosexuelles. Cara Delevingne, il a une des plus belles mannequins du monde, elle est homosexuelle, et alors
Delevingne, hein, Delevingne, Delevingne.
Vagne,
il y a de, oui, 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 faites voir une photo. Mm. Oh, la saleté, chassez la vision tentatrice de cette pécheresse qui met à mal l'élastique de mon slip français, bleu, blanc, rouge. Non, je vais me fouetter les génitoires à l'ortie fraîche.
Oui, c'est ça, allez, faites ça.
Ou je vais aller me baigner avec un liaga, ça me calmer.
Allez-y.
La joie de vivre est en train de monter en moi.
C'est bon.
Ouais, merci. J'adore la joie de vivre. Oh, une baleine.
Merci d'être passé, monsieur De Villiers. Oh là là.
Ça picote.
Canicule toujours. On va rappeler le numéro d'urgence pour la canicule. 0800 066 666.
666666. Le numéro du diable lui-même. Encore un signe. Ne nie pas. Femelle mamelue. Repentez-vous, Seigneur. Prends pitié. Alléluia.
Bon, allez, à bientôt. Monsieur De Villiers, s'il vous plaît, à bientôt. La canicule est donc installée en France. Pensez à bien prendre soin des personnes âgées de votre entourage. On ne le dira jamais assez.
Oui, c'est Oula. Important. Oula. Bonjour, Mme Julie, et bonjour à Monsieur Crêpe. Bonjour aux autres chroniqueurs concomitants.
Éric Ciotti.
Monsieur Crêpe, je suis là. Je suis là, devant vous. Oh, je suis debout.
Je me bats.
Monsieur Crêpe, je suis derrière le paquet de Crips Crolls. Voilà.
Bon alors, monsieur Ciotti, vous teniez à donner des conseils pour la canicule, je crois. Hein?
Oui, effectivement, c'est un combat qui me tient énormément à cœur. Mm-hmm. Je le dis d'autant plus volontiers que le gouvernement, sur ce sujet, ne fait rien.
Ben voilà.
Mais écoutez, il n'y a pas de... Et voilà, a-t-on vu... Monsieur Christophe Castaner passer une éponge humide concomitante sur le crâne d'Alain Juppé, par exemple.
Oh, écoutez, on va rappeler que la dernière canicule avait fait 15 000 morts chez les personnes âgées, on ne plaisante pas.
Voilà, hein. Voilà. Et nous, les Républicains, nous vous disons ceci, protégez les vieux. Mais oui, c'est une urgence, monsieur Apathy, monsieur Abiker, parce que sinon, qui va voter pour nous? On ne peut pas se permettre de perdre 15 000 électeurs. Déjà que nous n'avons plus beaucoup, donc soyez attentifs, merci.
Merci à vous aussi, Éric Ciotti. Le gouvernement, en fait, il trop. Les épreuves du BEPC ont été repoussées à cause de la canicule. On dit plus BEPC d'ailleurs, on doit dire le brevet, non, non, oui. Bon.
Vous êtes moderne, Madame Julie. Hein. On sent la modernité.
Ben oui, de mon temps, c'était le BEPC, que voulez-vous.
Un brevet, ça fait jeune.
Donc, les épreuves ont été repoussées à cause de la canicule. On va recevoir pour en parler Dany Cohn-Bendit. Bonjour, Dany.
Bonjour, Thomas. Salut, Crêpe. Bonjour, les autres. Alors, c'est sûr qu'il ne fait pas un temps à mettre en roue dehors, mais il y a quand même des limites, merde. Même si Apathy a défendu Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Bon.
Mais la politique, ce n'est pas du tir au pigeon. Hein. Ce n'est pas file, je place. Pardon, ce n'est pas face, je place. Face, tu perds. Non, merde. C'est pas... pile, je place. File. Pli. C'est pas pile, je... Pardon. C'est pas pile, je perds. Face, tu... Face, tu
Attendez, il y a Apathy qui a un coup de chaud, là. Cabrol, arrose-le avec ta bouteille de rosé frais.
Non. Pas mon rosé, là. Écoutez, ah non, les gars, j'en ai 8 litres pour tenir jusqu'à ce soir. C'est canicule, hein.
Bon, on revient à vous, Dany. Vous trouvez que c'est exagéré de repousser les examens, alors?
Exagéré de repousser les examens? Non, mais Julie, David, Céline, ouvrez les yeux, comment qu'ils font au Sénégal? Hein, les petits écoliers sénégalais, ils passent jamais d'examen, c'est ça? Hein, ou alors ils passent des examens, mais que de nuit et au mois de décembre, c'est ça? Donc alors nous, nos petites têtes blondes, passées 34 degrés, ils peuvent plus réfléchir, c'est ça? Tu veux que je te dise, on est en train de fabriquer une génération de chialeuses, voilà. Nous, excuse-moi, mais en 68, on révisait sur les barricades entre deux lacrymos et trois coup de matraque, c'était quand même autre chose. Oh merde, Apathy, tu t'en souviens? Non, t'étais trop jeune. Bon, bref, je te passerai tous ces petits merdeux au Karcher, ça les rafraîchirait, franchement. Voilà, hein? Merde, j'ai l'impression qu'en vieillissant, je deviens un peu de droite, moi, non?
Faites attention. Merci, Dany.
Ouais.
La chaleur est l'ennemi du rail.
Salut, Thomas.
Hier, la SNCF a été obligée de ralentir tous les trains. On va accueillir notre responsable SNCF, Monsieur Régis. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur au-dessus de 55 degrés peut entraîner une déformation des voies, c'est ça?
Tu vas te calmer, tu te prends pour Anicène Bidouille. Oh la vedette, la Leclerc, elle se prend pour Jamy Gourmaud. Dis-moi, Jamy, pourquoi les trains roulent moins vite quand il fait chaud? Oh, doucement, la Julie. T'embarques pas sur des questions scientifiques dont tu maîtriseras pas la réponse. Méfie-toi, la Leclerc, doucement,
oui,
la vedette.
Allez, oui, je vous demande simplement pourquoi vos TGV roulent moins vite, monsieur Régis, c'est tout.
Mais parce que le TGV, c'est le train le plus rapide du monde. C'est une fusée horizontale, une fusée sur rail, plus rapide du monde, une fusée, mais uniquement avec une température tempéré. Quand il fait ni trop chaud, ni trop froid. Là, il est rapide.
Rebonjour, Thomas. C'est extraordinaire. Comment? Alors, je pose la question, excusez-moi.
Quoi?
Mais comment qu'ils font les trains au Sénégal? Ils roulent de nuit au mois de décembre, c'est ça? Merde, Thomas.
Merci, Dany. Allez, on va demander un conseil santé à Michel Simès. Bonjour, Michel. Alors, quel est votre conseil anti-canicule?
Bonjour Marina, bonjour à tous. Eh bien écoutez, pensez à arroser Apathy. Il délire, il peut délirer, c'est pas bon. Eh bien moi j'ai le super conseil santé anti-canicule, buvez de l'eau.
Oui, enfin c'est un peu court ça. Alors quoi, de l'eau plate, pétillante, à température, en quelle quantité? Ben Michel Simès, soyez plus précis.
Quelle quantité? Eh bien ma chère Julie, juste un verre, vous descendez en bord de Seine et vous buvez un grand verre d'eau de Seine.
Enfin, pas potable l'eau de la Seine.
Mais justement Marina, c'est tout l'intérêt. Avec un seul petit verre d'eau de Seine, vous allez être rapidement pris de convulsions, de spasmes et de vomissements intempestifs. Les pompiers vont donc arriver de fête et vont vous transporter vers l'hôpital le plus proche où normalement là, ils ont la clim.
Ah,
5 jours au plus marre, peinard avec la clim. C'était mon conseil santé.
Eh bien merci docteur.
Je sais pas, c'est file. Je place, face du pain. Je vais pas y arriver. Non, merde, c'est pile, je place. File, je place. Passe, putain, je sais.
Nicolas Cantelou en direct ce matin, Jean-Michel.
Ouais, ça y est. Et bravo à ses auteurs, bien sûr, Laurent Vassili, Ardo Demanche, Philippe Cavrivière, 8h53. Bonjour Wendy Bouchard.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le tour de la question dans un instant, quel est le programme?
Eh bien on va parler des pompiers justement, grève reconductible tout l'été, vous le savez, pourquoi ces hommes et ces femmes qui sont à 80% volontaires sont en plein désarroi. Une intervention toutes les 6 secondes, seulement 250 000 pompiers aujourd'hui et des vacations très peu payées. On va faire le tour de cette question avec beaucoup de témoignages. Et puis à 10h, j'accueille des passionnés du Tour de France, passionnés aussi de la France tout court et de ses reliefs, Gérard Holtz, Christian Laborde, Thomas Veuclair, Axel May d'Europe 1. À 9 jours du tour, on va parler aussi de la manière dont cet événement, suivi par 190 pays, vous inspire, chers amis.
Le tour de la question à partir de 9h avec Wendy Bouchard. À tout de suite.
Wendy qui attend vos appels au 39-21 dès maintenant à suivre la météo et l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Il est 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale. Tout de suite, un point sur le temps avec Laurent Cabrol.
Laurent, on attaque le point culminant là, du pic de chaleur avec aussi des orages dans l'ouest.
Oui, alors espérons que ces orages seront moins violents que ceux dont je parlais tout à l'heure qui ont affecté le Calvados et une partie de la Seine-Maritime dans la nuit de lundi à mardi. Il y a des orages en ce moment vers Rennes, autour de Rennes, autour de l'Île-Dieu et des nuages d'orage à Nantes, l'île de Guérande, Vannes et Dinard. Voilà pour les orages et puis la canicule, bien sûr, je n'y reviens pas. Tout le monde sait, tout le monde est prévenu, on en parle depuis maintenant au moins 6-7 jours. Donc la canicule, c'est pour cet après-midi à son point, non pas culminant, mais presque, avec du 41, Brive, Limoges, Auxerre, Périgueux, 40-41, on verra, hein, ce sont les prévisions. 39 à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Bourges, Épinal, Besançon, Nancy, Colmar, 38, 37 à Toulouse et Poitiers, comme à Dijon, 36 à Langres, 35 à Paris, 34 à Rennes et 31 à Nice, 28 à Lille, 26 à Caen, 25 à Brest et 20 degrés à Saint-Brieuc.
Voilà, c'était mal écrit sur la feuille.
C'était Biarritz.
34 à Biarritz.
Merci beaucoup Laurent.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Sébastien Krebs.
La canicule et le mercure qui continuent à monter en flèche, des températures records attendues aujourd'hui, on le disait avec Laurent Cabrol, 39 à Grenoble, 41 à Clermont-Ferrand. Et avec la chaleur vient la pollution. Attention, circulation différenciée aujourd'hui à Paris et Lyon. À 8h15, la ministre de la Santé Agnès Buzyn était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Les EHPAD sont très bien équipés aujourd'hui pour protéger les personnes âgées, mais on se rend compte que la mortalité a évolué parce que le grand public, en fait, ne prend pas de précautions. Souvent, les gens sont dans le déni, continuent à faire du sport. Il ne faut pas se leurrer. Des vagues de chaleur intenses, même si l'on prend énormément de précautions, peut entraîner des morts prématurées.
Donc, il ne peut pas y avoir zéro mort à l'issue de cette canicule.
Il ne peut jamais y avoir zéro mort à l'issue d'une canicule, notamment chez des personnes très âgées et très fragiles.
Agnès Buzyn, ce matin sur Europe 1, à la une également. Ce rapport parlementaire très attendu sur la radicalisation dans les services publics, l'école, l'université, l'hôpital, les transports, la prison. Quelle est l'ampleur du phénomène ? L'administration est-elle armée pour y répondre ? À 7h45, je posais la question à mon invité Médéric Chapiteau, ancien gendarme et chercheur spécialiste de la radicalisation.
C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, on le voit tous les jours dans la société. Aujourd'hui, des éducateurs sportifs qui sont en face-à-face pédagogique avec des enfants au quotidien, s'ils sont radicalisés et suivis par les services de renseignement, rien ne les empêche d'exercer avec une carte professionnelle d'éducateur sportif. On ne peut pas, d'un côté, estimer que ces personnes présentent un risque pour la sûreté de l'État et, de l'autre côté, leur donner accès à des secteurs comme vous venez de le citer. Il y a des vraies questions de sécurité qui se posent pour l'ensemble de la population.
Voilà pour l'essentiel ce matin. Merci à toute la rédaction, à toutes les équipes. Je salue Nikos qui sera de retour demain. Merci à lui pour sa confiance et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée dans la chaleur. Courage. Dans un instant, c'est Wendy Bouchard qui vous accompagne.
Merci à vous, Sébastien Krebs.